Vous écoutez
RMC.
Nous sommes le lundi 3 août, RMC 7h.
RMC, Apolline Matin.
Et tout ce qu'il faut savoir sur l'actu, c'est avec Clara Gabillet. Bonjour Clara.
Bonjour Rémi, bonjour à tous. Un semblant de retour à la vie normale en Gironde. Les habitants de Lesches-Cap-Ferret et du Porge autorisés aujourd'hui à rentrer chez eux après une dizaine de jours d'évacuation. Le feu est toujours fixé. Dans le Var, les pompiers luttent toujours pour contenir l'incendie qui pourrait être attisé par de fortes chaleurs et des rafales de vent aujourd'hui. Et puis les coureuses du Tour de France femmes, elles aussi toujours sous une chaleur écrasante pour la troisième étape dans le Jura. Hier, nouvelle victoire de la néerlandaise Lorena Wiebes.
Clara, des milliers d'évacués en Gironde, bientôt de retour chez eux.
Ils avaient dû évacuer leur logement à cause des flammes. Il y a une dizaine de jours, le méga-feu qui a ravagé 42 000 hectares est fixé depuis avant-hier. La plupart des derniers évacués vont donc pouvoir rentrer. Les habitants du Lesches-Cap-Ferret autorisés à partir de 19h ce soir, ceux du Porge à 14h. C'est la commune qui a le plus souffert de cet incendie. Alors Célestin Bougère, il y a beaucoup d'impatience et beaucoup d'angoisse.
Comme un immense soulagement pour Marie-Laurence qui va retrouver sa maison de famille cet après-midi.
On se sentait éloigné et un peu impuissant.
Éloigné de sa maison qui n'a pas été touchée par les flammes, elle a hâte de retrouver ses objets les plus précieux.
Les photos de mes grands-parents, tout un tas de choses qui n'ont pas de valeur financière, mais une grosse valeur affective et que j'ai eu peur de perdre.
Puis Marie-Laurence s'interrompt.
J'ai un peu honte, quoi. Je suis pas la pire, moi, j'ai rien perdu. Les gens qui ont tout perdu, c'est d'eux dont il faut parler.
Car c'est au Porge que le bilan est le plus lourd. Plus de 180 maisons détruites, la forêt partie en fumée.
Et ça, j'appréhende.
Confie Yannick, enfermé depuis le début des incendies dans sa cuisine, dans le village, à préparer les repas des pompiers.
C'est surtout les souvenirs qu'on avait avant et qui vont être complètement différents maintenant et complètement tronqués. C'est un crève-cœur, oui, c'est clair.
C'est donc une nouvelle étape qui commence pour les habitants du Porge, mais aussi pour le maire, Martial Zaninetti.
La reconstruction de ce village, la préparation de la rentrée scolaire dans un mois, toute la partie assurance, hébergement pour ceux qui ont perdu leur maison, donc on parle de plusieurs années. L'ensemble des équipes se préparent, aider tout le monde.
Un point d'accueil français. Le service sera notamment ouvert pour aider les sinistrés dans leurs démarches administratives.
Et il faudra encore patienter un peu dans les campings évacués. Pas d'autorisation pour l'instant. Une opération de déminage est en cours. Des obus de la Seconde Guerre mondiale ont été découverts dans plusieurs communes. À noter que 7 départements sont en vigilance orange aux orages dans le sud-ouest de la Dordogne à la Haute-Garonne à partir de 16h. Dans le Var, les pompiers luttent toujours activement pour éviter toute reprise de feu, mais la situation est pour l'instant stable. Incendie qui a ravagé 1850 hectares, susceptible de repartir à cause des fortes chaleur et du vent attendu aujourd'hui. Le risque feu de forêt est très élevé dans le département, mais pour l'instant, les habitants évacués sont de retour chez eux, comme Aurélie, rentrée à Montfort-sur-Argent, mais loin d'être soulagée après une troisième évacuation en 2 semaines.
On pouvait retourner chez nous, mais en fait, garder vos voitures prêtes à partir avec tout ce qu'il fallait dans le coffre. Donc, dans mon coffre, j'ai toute ma vie, tous mes papiers. Voilà, j'ai mes ordinateurs, mon travail, mon perso. Depuis la semaine du 21, où je me trimballe avec tout ça. Les valises, elles sont dans la maison. Tant qu'on ne dit pas c'est bon, ça restera là. Et dès qu'il faut partir, hop là, je prends la valise et je m'en vais.
Et dans quelques instants, Clara, nous serons avec la maire de la commune de Corins, dans le Var, une commune qui a été totalement coupée du monde en raison de ces incendies.
Et à quelques centaines de kilomètres dans l'Aude, l'évacuation n'aura finalement duré que quelques heures pour 150 habitants après cet incendie qui a ravagé une centaine d'hectares, parti d'une voiture en feu sur l'autoroute A61. Il a finalement été fixé dans la soirée.
Et la liste s'allonge encore avec cet autre incendie, cette fois en Moselle.
Dans un entrepôt industriel, site classé Céveso, donc dangereux, mais le risque de toxicité a finalement été écarté, le feu maîtrisé. 30 000 habitants ont dû rester enfermés chez eux une partie de la journée et ils ont pu ressortir, Lou Garnier, sans vraiment être rassurés.
Oui, car pendant de longues heures, un impressionnant panache de fumée noire s'est répandu dans le ciel en provenance d'un entrepôt de déchets industriels. Le site abrite de nombreuses substances toxiques. Anthony habite à 500 mètres de là, alors il n'est pas vraiment rassuré.
J'ai un peu mal à la gorge, ça sentait mauvais. C'est un peu la préoccupation de se dire on pourrait respirer du mauvais air pendant quelques jours. On va prendre des précautions dans la famille, par exemple la climatisation, on ne va pas l'allumer ces 2 prochains jours, je pense, pour éviter que le mauvais air entre dans la maison.
Même vigilant réponse pour Célia. Elle habite Amnéville, une des communes qui a été confinée. Elle espère en savoir plus.
Sur ces fumées toxiques, c'est inquiétant. Tout ce qu'on a planté au niveau du jardin, ben on va pas les manger pour éviter d'être intoxiqué.
Elle compte aussi porter un masque ces prochains jours. Des inquiétudes que comprend Quentin Bigot. Il est maire de Gandrange, la commune dans laquelle a eu lieu l'incendie.
Je suis habitant de la commune, j'ai des enfants, donc je suis forcément aussi inquiet. Après, je fais confiance aussi aux autorités de l'État. La qualité de l'air est tout à fait normale. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle.
Deux pompiers et un employé du site ont été légèrement blessés dans l'incendie.
Des incendies également en Grèce depuis plusieurs jours, en Crète, avec cette collision hier entre deux hélicoptères mobilisés contre le feu. Deux personnes sont décédées.
Clara, la crise entre le Maroc et l'Espagne, crise sur l'afflux de migrants à Ceuta.
Des dizaines de milliers de personnes ont essayé ces derniers jours de rentrer dans cette enclave espagnole frontalière avec le Maroc, certains par la nage. Selon Madrid, il y a eu au moins 72 morts et la quasi-totalité de ces 60 000 personnes ont été renvoyées au Maroc. C'est ce que dit le gouvernement espagnol. Ce sont en majorité des jeunes hommes qui racontent leur tentative de franchir la frontière et les violences qu'ils ont subies.
La nouvelle s'est répandue sur les réseaux sociaux dans tout le Maroc. Tout le Maroc s'est retrouvé à Ceuta. J'ai vu des femmes avec des enfants, des familles. J'ai vu des enfants non accompagnés, âgés d'environ 6 à 8 ans, tenter d'émigrer illégalement. C'est incroyable.
Nous avons traversé des moments difficiles. Ils nous ont frappés et ont pointé des armes à feu sur nous. On en a marre de tout ça. C'est fini.
On a subi des mauvais traitements à Ceuta. Maintenant, je veux juste rentrer dans mon pays parce que le Maroc, c'est mieux que Ceuta.
Le cours du pétrole en baisse de 5% ce matin après l'annonce de Donald Trump d'une reprise des négociations aujourd'hui avec l'Iran. Après plusieurs menaces, le président américain dit avoir renoncé samedi à attaquer Téhéran.
Les vacances et les touristes qui plébiscitent de plus en plus les destinations plus au frais.
La Bretagne, la montagne, le Pas-de-Calais même où les professionnels ont enregistré le mois dernier une hausse de 11% par rapport à l'an dernier. Ce qui évidemment leur donne le sourire, Martin Lange.
On n'a rien vu venir, s'exclame Marie. Elle tient des chambres d'hôtes à Vimereux sur la côte d'Opale dans le Pas-de-Calais et elle affiche complet jusqu'à mi-août. L'été dernier, son taux d'occupation tournait plutôt autour de 60%.
Là, j'hallucine en fait.
Une des explications, ici, les températures dépassent rarement les 30 degrés.
Les gens tout de suite demandent est-ce qu'on peut déjeuner dehors? Est-ce qu'on va pas avoir trop chaud? La mer, elle est super bonne, elle est à 20 degrés, donc c'est un peu comme sur la côte d'Azur dans les gros coups de chaleur.
Un constat que partage Mathias, il loue des vélos et des kayaks en Savoie, près du lac du Bourg.
Nous, l'activité, je pense qu'elle augmente d'année en année. Les gens peut-être s'intéressent plus à la montagne et viennent chercher un peu plus de fraîcheur.
Les températures, ça devient un critère dans le choix de sa destination de vacances. Selon Vangelis Panayotis, il est président d'un cabinet spécialisé dans le tourisme.
On se dit finalement, en hiver, allons au soleil et en été, allons au frais. C'est une nouvelle destination alternative qui sont une réponse des consommateurs, ces effets de chaleur écrasante.
Des destinations également prisées pour leur calme et leur bon rapport qualité-prix, selon le spécialiste.
Et si vous avez décidé de changer vos plans, si vous avez décidé de passer vos vacances au frais, notamment dans le Nord-Pas-de-Calais, pourquoi pas chez moi, vous nous appelez au 3216.
Le Tour de France femme avec une nouvelle victoire pour Lorena Wiebes, la néerlandaise, s'est imposée au sprint hier à Genève, en Suisse, au terme d'une étape très difficile, Maria Azé, à cause d'une chaleur de plomb.
Saute dans les bancs froids comme Juliette Berthet de la FDJ Suez.
C'est vrai qu'il fait chaud à chaque fois un petit peu plus que la météo annonce, quand même pas facile à gérer, on a pas mal de ravito, mais des fois c'est vrai que ça chauffait vraiment dans les bosses. Dans le dos là ça tapait bien, mais je pense qu'on a plutôt bien géré avec les filles.
Plus de 35 degrés entre Aigle et Genève hier, alors Solène Muller, coureuse chez Saint-Michel, trouve des solutions.
Ça va être froid sur le dos tout de suite après l'étape, on met énormément de glaçons dans le dos pendant toute l'étape, on s'asperge d'eau froide, on boit au maximum. Dès qu'on est à l'hôtel, ventilateur et des pads à mettre sous les draps rafraîchissants.
Aujourd'hui, toute pratique le hit training, des entraînements sous très forte chaleur pour mieux la supporter en course. Pas toujours suffisant pour le directeur de la performance de la FDJ Suez, Flavien Sonnen.
Il y en a qui se gèrent ça très bien habituellement et qui souffrent cette semaine. Des fois, il y a un bidon de perdu, à un mauvais moment, un gros effort et on passe la limite. Quand on a le prend le coup de chaud, on n'arrive plus forcément à s'alimenter. Et donc, quand on n'arrive plus à s'alimenter, on n'a plus assez d'énergie pour récupérer correctement. Donc, c'est les protocoles qu'on suit avec le docteur de l'équipe, la nutritionniste et nous, les coachs.
Et le peloton devrait encore souffrir aujourd'hui entre Genève et Poligny avec 38 degrés attendus cet après-midi.
Randal Kolo Muani quitte officiellement le Paris Saint-Germain pour la Juventus, transfert annoncé par le club italien pour un montant de 38 millions d'euros avec 12 millions d'euros de bonus, l'attaquant qui avait été prêté à Turin l'an dernier.
Merci beaucoup Clara. Le prochain point sur l'actu, le prochain journal, ce sera à 7h30. Allez, on prend tout de suite la direction de Corrence. On est dans le Var. Bonjour Nicole Rulland. Nicole Rulland, est-ce que vous êtes avec nous? Nicole Rulland. Non, apparemment on ne l'a pas. Ouais, j'ai l'impression qu'elle n'est pas tout de suite avec nous, mais on va la rappeler. Nous allons à Corrence parce que Corrence, c'est donc cette commune du Var, 3 jours sans eau, sans électricité et sans téléphone, une commune qui est restée totalement coupée du monde en raison des incendies qui ravagent actuellement le département, une partie en tout cas du Var. On en parlait il y a un instant avec le journal de Clara Gabillet. Depuis vendredi dernier, la commune est encerclée par les flammes. Est-ce que Nicole Rulland est avec nous? On est en train de la rappeler. Non, bon, c'est pas grave. Allez, dans un instant, on va essayer de la joindre, évidemment, pour faire un point sur ce qui se passe dans cette commune de Corrence, dans le Var. RMC, 7h10, ça arrive, mais heureusement, il est en avance. Il est avec nous. Merci d'être en avance, Zartost Bakhtiari, est-ce que je prononce bien votre nom?
Très bien.
Bon, maire de Neuilly-sur-Marne, merci d'être avec nous en Seine-Saint-Denis. Vous êtes avec nous sur RMC, RMC Story. On parlait d'un incendie, mais justement, il est également question d'incendie dans votre commune, au cœur d'un parc de la ville. L'origine du feu, elle est clairement humaine. Des gamins de 10 ans, monsieur le maire, qui jouaient avec des mortiers d'artifice. Et ce matin, vous lancez un appel sur RMC et RMC Story. Votre appel, c'est tenez vos gamins, vous en appelez à la responsabilité des parents. Vous êtes avec nous. On se retrouve dans un instant sur RMC et RMC Story. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Rémi Barret.
RMC 7h14, Apolline Matin, nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Plus de 2 hectares partis en fumée, plus de 150 arbres brûlés. C'est le bilan de l'incendie du parc communal de Neuilly-sur-Marne. Nous sommes en région parisienne, en Seine-Saint-Denis. Rebonjour, Zartost Bakhtiari. Vous êtes le maire de cette ville. Et vous avez poussé un coup de gueule jeudi sur les réseaux sociaux parce que cet incendie, il est d'origine humaine. Une bêtise, j'allais dire, mais vous allez peut-être me dire que c'est plus qu'une bêtise. En tout cas, elle implique des enfants de 10 ans, c'est ça à peu près ?
Une dizaine d'années, ouais.
Une dizaine d'années et des mortiers d'artifice, voilà, ils sont simplement amusés. Simplement, c'est pas un jugement de valeur, mais en tout cas, ils se sont amusés avec des mortiers d'artifice. Et vous lancez cet appel, tenez vos gamins, c'est votre parti pris ce matin sur RMC, monsieur le maire. Que s'est-il passé exactement? Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé dans ce parc?
On est dans le parc des 33 hectares, donc c'est un poumon vert en plein milieu de la ville, donc un parc qui est fréquenté par des milliers de familles tous les jours. Et dans ce parc, samedi, il y a une semaine, on a des enfants d'une dizaine d'années qui jouaient effectivement à 16h, en plein milieu de la journée, avec des mortiers. Dans l'énoncé de ce que je viens de vous dire, il n'y a rien qui va. À quel moment des enfants d'une dizaine d'années jouent seuls dans un parc avec des mortiers, des explosifs, en plein milieu de la journée, devant tout le monde? Et ce qui s'est passé est absolument dramatique, parce qu'effectivement, ils ont provoqué un incendie qu'ils n'ont pas pu, évidemment, contrôler. 2,5 hectares qui partent en fumée, 150 arbres qui partent en fumée. Ça a failli ravager un terrain de sport en plein air, un terrain de basket qu'on a inauguré il y a 3 ans, des espaces de jeu en plein air. Enfin, voilà, donc les conséquences sont très importantes.
Et j'imagine qu'à samedi, à 16h, en plein
air, il y avait du monde.
Il faisait très sec, donc c'est petit. Très vite,
oui.
Et il y avait du monde.
Et il y avait du monde. Ça aurait pu être dramatique. Quand le feu se propage et on voit sur les images que le terrain a vite été consumé, on a des habitations qui sont à grande proximité. Il suffisait de quelques mètres de plus, quelques minutes de plus pour que le feu se propage, y compris aux balcons, aux habitations, et provoque un drame absolument invraisemblable. Parti d'un acte grave, moi je considère pas que c'est une bêtise. Encore une fois, moi on a tous été jeunes, on a pu faire des bêtises. Là, il s'agit d'un acte grave. Avoir des mortiers d'artifice entre les mains à 10 ans, c'est pas acceptable. Et on banalise trop souvent cet usage des mortiers. Et le plus grave là-dedans, ce sont les parents, l'irresponsabilité des parents.
C'est ça, parce que vous mettez davantage en cause les parents, oui, que les enfants.
Évidemment, les parents, si vous voulez, dans ce parc, quand vous vous baladez en pleine journée, parfois vous voyez des enfants de 6-7 ans qui jouent à des jeux et vous cherchez les parents, il n'y en a pas. Ils sont pas là. À quel moment des enfants de 6-7 ans se baladent seuls dans un parc qui est aussi vaste que dans un parc de 33 hectares, donc 33 000 mètres carrés quand même de nature.
Vous les avez identifiés, les parents, ou pas?
Pas encore. On a déposé plainte. Justement pour pouvoir avoir une enquête sérieuse qui soit menée. Donc j'en appelle au procureur de la République pour que l'enquête soit menée sous son égide, que des investigations soient menées, qu'on arrive à identifier les parents clairement, sans aucun doute, qui est une action, parce que encore une fois, on se plaint souvent d'avoir des parents qui sont défaillants. Mais quand ils sont défaillants, il faut leur envoyer un message. Et le message, là, pour le coup, nous on a pour des centaines de milliers d'euros de dégâts. Le message est clair. Il faut qu'il y ait une contribution à la réparation de ces dégâts.
Donc vous demandez à ce que les parents payent.
Ils participent à la facture. C'est parfaitement anormal d'avoir toujours le même contribuable qui paye pour les bêtises d'une poignée. Voilà. Donc moi, je veux simplement que justice soit rétablie et que le message soit passé, que les enfants comprennent que ce qu'ils ont fait est extrêmement grave, que les parents comprennent que ne pas surveiller les enfants, c'est extrêmement grave également, et qu'il y ait une réponse qui soit ferme et donnée rapidement.
Le maire de Neuilly-sur-Marne est avec nous. Vous êtes nombreux à réagir. Ça laisse pas indifférent ce type de situation. Vous êtes nombreux à réagir au 06 12 424 424, le WhatsApp de l'émission. Victor Pourchet est avec moi. Victor, des questions pour Monsieur le maire.
Et d'abord, Christian, qui nous dit, qui fait le rapprochement avec ce qui s'est passé dans le Var, où là aussi des mineurs ont été interpellés, des mineurs qui font n'importe quoi et qui détruisent des biens privés comme publics. Quand, écrit Christian en majuscule, quand la justice va-t-elle faire des sanctions exemplaires? Et je rajoute au passage, dans cette quête des responsabilités, dans cette affaire, Francis qui nous envoie, au fait, je me demande comment ces gamins de Neuilly-sur-Marne se sont-ils procurés les mortiers? Qui finalement les a achetés?
Parce que c'est interdit.
C'est interdit, ben évidemment. Et ce que j'ai découvert, c'est que donc le préfet, suite à cela, a pris un arrêté pour interdire l'usage et la détention d'engins pyrotechniques de cette catégorie-là pendant un mois. Moi, j'ai découvert qu'en fait, c'était pas totalement interdit. Et je pensais naïvement que effectivement, il était particulièrement compliqué quand on a 10 ans de s'en procurer, mais finalement pas tant que ça, puisqu'il se retrouve avec des mortiers d'artifice, donc des engins explosifs pyrotechniques en plein milieu d'un parc. Et ce que je note également, c'est que cette impunité pour les mineurs et le fait qu'il y ait aucun cadre qui soit donné se répète. Moi, je me souviens, il y a 3 ans, j'étais venu pour les émeutes. Dans le cadre des émeutes, moi, j'avais des enfants de 12, 13, 14 ans qui, à 4 heures du matin, étaient avec des cocktails Molotov devant le commissariat. Ils ont été interpellés, placés en garde à vue, présentés à un juge, et ils sont sortis sous les applaudissements du public du tribunal. Donc voilà le message que l'on voit.
Avec quelles conséquences?
Rien. La conséquence, c'est qu'on les a... Rien.
Rien.
On les a renforcés dans leur bêtise. Et dans leur... pas dans leur bêtise, dans leur criminalité. Dans leur début de parcours criminel. Donc, en fait, à partir du moment où la société n'envoie pas de message, il faut pas s'étonner qu'on ait des actes de plus en plus graves.
Est-ce que vous estimez, vous, en tant qu'élu local, ce qu'on entend dans la bouche d'un certain nombre de responsables politiques, que la justice ne suit pas?
Aujourd'hui,
que la justice est trop laxiste pour dire les choses.
Le code civil permet d'aller chercher la responsabilité, notamment financière, des parents. Donc là, moi, j'attends qu'il y ait justice qui soit faite et qu'on aille rechercher la responsabilité financière des parents. La justice pénale, elle pose également question et elle pose difficulté. Quand vous avez des enfants se retrouvent avec des travaux d'intérêt général 3 ou 4 ans plus tard après les faits commis, ça n'a plus aucun intérêt. Si c'était fait immédiatement, si la sanction était suffisamment grave, s'il y avait un encadrement assez clair derrière, je pense que le message judiciaire, tout le monde le comprendrait. Il faut un peu de fermeté.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Zartost Bakhtiari, maire de Neuilly-sur-Marne, en Seine-Saint-Denis. Merci d'avoir été avec nous sur RMC et RMC Story. Tout de suite, c'est l'écho avec Pierre Rondeau.
RMC,
le chiffre du jour.
Salut Pierre.
Salut Rémi.
Le chiffre du jour, c'est 25%. En France, seuls 25% des salariés pose l'intégralité de leur congé.
Oui.
Moi, je sais que je peux.
Oui, ça, c'est quand même assez étonnant, venant de la France, hein, le pays qui a le plus de jours de congés payés, et bien c'est aussi le pays en Europe qui a le plus de jours de congés non utilisés. En moyenne, en France, on compte 34 jours de congé RTT inclus. Mmh. Et pourtant, seul un salarié sur quatre consomme l'intégralité de ses droits, soit 25%. Et ce taux atteint 40 à 50%, donc les sommets, enfin les taux les plus élevés, mmh, en Allemagne, en Norvège, au Royaume-Uni ou en Pologne. En France, on a donc 6 jours de congé par personne qui reste inutilisé chaque année.
Les Français sont des bosseurs.
Mais rassurez-vous, on n'est pas les premiers. On est les premiers en Europe, on n'est pas les premiers, puisque les premiers mondiaux sont le Canada. Le Canada a la première place, avec seulement 20% des salariés qui posent l'intégrité de leur congé et qui ont seulement 15 jours de repos en moyenne. La France, première en Europe et deuxième sur Terre.
Donc la France, première en Europe, deuxième mondiale. Comment tu l'expliques?
Alors, d'abord, c'est assez facile à comprendre. Parce que la France dispose du plus grand nombre de congés payés, de fait, comme on a beaucoup, on ne les prend pas tous.
Ouais.
Ah oui, on choisit, on picore,
on en a trop.
C'est l'excès, encore une fois, l'excès, la gabegie, on en a trop. Les Norvégiens, les Britanniques, les Polonais, qui n'ont que 25 jours de congés en moyenne, 9 de moins que nous, bah, dès qu'ils le peuvent, ils les prennent. Et ensuite, deuxième élément, en France, nous disposons du compte épargne-temps, le CET, qui permet, dans certaines entreprises, de placer des jours sur un genre de compte épargne afin de différer ou de monétiser des congés, comme un peu la fourmi, on met de côté pour récupérer derrière.
Ouais, donc les Français ont peut-être pas trop de congés payés, mais disons qu'ils ont besoin d'argent, quoi.
D'une certaine manière, oui, voilà, on ne prend pas tout, on en a beaucoup, et on a besoin d'argent. Dernier élément à préciser aussi, c'est la semaine de Noël qui a le plus de congés, où le plus de congés sont posés en France, avec 56% des salariés absents, contre 40% seulement, si je peux dire, lors de la semaine du 15 août.
Et quand tes prochains congés, Pierre?
C'est pas ce mois-ci, en tout cas.
Bon, allez, on se retrouve après le journal de 8 heures, Pierre. Là, tu nous parleras de l'intelligence artificielle et du règlement européen sur la question, qu'est-ce que ça va changer pour notre usage quotidien. Tout de suite, c'est le meilleur de l'historien d'Apolline Matin. Cet historien a un nom, il s'appelle Arthur Chevalier. Les Beatles au programme de ce matin.
Arthur, on sent que vous faites plaisir ce matin, parce que vous avez choisi de nous parler de Paul McCartney et on y sent une certaine passion. Aujourd'hui, c'est la sortie d'un documentaire événement sur la plateforme Prime Video, ça s'appelle Man on the Run, et c'est consacré donc au chanteur Paul McCartney.
Oui, et plus particulièrement aux années qui ont suivi sa séparation avec les Beatles. Le documentaire révèle des archives inédites de la vie du chanteur. Un événement mondial, puisque Paul McCartney, c'est le plus grand musicien de la deuxième moitié.
Voilà, vous l'avez carrément dit comme ça.
J'ai dit comme ça, en début de chronique. Hein. Eh bien oui, puisqu'en fait, tout ce qui a touché Paul McCartney dans le domaine de la musique, Apolline, il faut bien le dire, tout s'est transformé en or. Hein. Et ça a commencé dès ses 18 ans, en 1960, avec John Lennon. Il fonde un groupe de rock, les Beatles. En moins d'une décennie, les Beatles vont enchaîner les tubes et devenir un véritable phénomène de société à l'échelle planétaire. 600 millions, c'est le nombre d'albums des Beatles vendus à ce jour, un record absolu.
Paul McCartney, il avait quel rôle au sein des Beatles?
Alors, c'était le plus travailleur, j'insiste là-dessus. Il a écrit l'écrasante majorité des chansons avec John Lennon, mais surtout, c'est lui qui, tous les jours, appelait chaque membre du groupe pour leur demander de venir en studio, pour les faire bosser, si vous préférez. Sans lui, les Beatles n'auraient jamais fait une telle carrière, ni connu un tel succès. Et forcément, McCartney a fini par en avoir marre de porter tout le monde à bout de bras. En 1970, coup de tonnerre, sans prévenir personne, il quitte les Beatles, c'était la fin d'une époque.
Et le début d'une nouvelle.
Et oui, puisque comme je vous le disais, McCartney, c'est un travailleur acharné. Sa devise, c'est soit on joue, soit on meurt. Il remonte à cheval immédiatement après les Beatles et il forme un nouveau groupe avec sa femme, Linda. Ce groupe, ça s'appelle les Wings. Et c'est justement cette période que raconte le documentaire. Et là encore, évidemment, ça va cartonner. Plein de tubes, dont un morceau mythique qui sera la bande originale d'un James Bond en 1973, Live and Let Die.
McCartney, c'est aussi et surtout un musicien surdoué.
Mais oui, le Mozart du XXe siècle, le mot n'est pas trop fort d'ailleurs sur certains albums. C'est lui qui joue tous les instruments, de la basse, de la batterie, de la guitare, du piano et même de la trompette qu'il joue depuis ses 14 ans. C'est aussi un précurseur puisqu'on lui doit un des premiers albums électro, ça s'appelait McCartney 2, c'était en 1980. Il a aussi composé beaucoup de musique classique et il a bien sûr collaboré avec les plus grands, dont un duo absolument génial avec Michael Jackson, ça s'appelait Say Say Say. C'était en 1983.
Et c'est sublime.
Incroyable, hein? Quelle chanson!
J'adore, ça fait grand plaisir. Je vais l'écouter toute la journée, Arthur, grâce à vous. Sa notoriété, elle dépasse même la planète Terre.
Oui, déjà parce qu'en 1983, des scientifiques lui rendent hommage en donnant son nom à un astéroïde, l'astéroïde McCartney. Ensuite parce que, alors ça c'est incroyable, c'est le premier artiste à avoir été diffusé en direct dans l'espace. En 2005, Alors qu'il donne un concert en Californie, le show est diffusé en même temps dans la Station Spatiale Internationale. Aujourd'hui, Paul McCartney a 83 ans. Un de ses derniers morceaux, c'était fin 2025, une chanson sans musique ni parole, juste du silence, en signe de protestation contre l'intelligence artificielle.
Extraordinaire.
Voilà, Arthur Chevalier à retrouver en podcast sur l'appli RMC. Dans un instant, la météo, le journal de 7h30 et puis à 7h40, après les affaires Liana et les scandales du périscolaire à Paris ou encore à Biarritz, comment mieux protéger les enfants en colonie de vacances cet été? Les parents sont souvent inquiets. Justement, si vous êtes parent, tiens, que vous avez envoyé votre enfant en colonie de vacances, mais que vous êtes inquiet, ou alors si vous avez renoncé à envoyer votre enfant en colonie de vacances, vous nous appelez au 3216. La haute commissaire à l'enfance réclame un fichier unique de vérification des encadrants. Sarah El Haïry est notre invitée à 7h40 sur RMC et RMC Story. Bon réveil à tous. À tout. RMC. 7h30.
RMC, Apolline Matin.
Et tout ce qu'il faut savoir sur l'actu, c'est avec Clément Ruiz. Bonjour Clément.
Bonjour Rémi, bonjour à tous. Les habitants de la Cap Ferré et certains quartiers du Porche vont retrouver aujourd'hui leur logement. L'incendie qui a ravagé 42 000 hectares en Gironde est fixé depuis samedi. Reste maintenant à notre défi, sauver la fin de saison touristique. Le gouvernement muscle sa réponse face à l'explosion des noyades depuis le début de l'été. Se baigner malgré les interdictions coûtera désormais plus cher. L'amende passe à 68 euros. Et le peloton du Tour de France femme affronte un adversaire de taille, la canicule.
Clément, après l'incendie en Gironde, la saison touristique peut-elle encore être sauvée?
Le Premier ministre Sébastien Lecornu appelle à la solidarité dans un entretien à la Tribune dimanche et encourage les Français à venir y passer les vacances. Objectif, sauver la saison estivale. Et sur le terrain, les touristes sont-ils vraiment de retour? Notre envoyé spécial RMC, Lucas Laubert, s'est rendu à Andernos-les-Bains.
Ils n'ont pas hésité une seconde. Tanguy et Daniel ont changé leur plan par solidarité.
Nous étions en vacances à l'île de Ré et comme il nous restait une journée aujourd'hui, on s'est dit, pour soutenir les commerces et les restaurateurs, on ne s'est même pas posé la question. On s'est dit, aujourd'hui, on ira en Dernos.
Mais cette solidarité est encore loin d'être suffisante. L'activité des commerces reprend timidement. Séverine, co-gérante d'un café, ne reconnaît plus sa ville.
Ça ressemble en fait à une ville du mois de mai en semaine. Si vous voulez, dans cette rue-là, c'est sans fin. Le matin et soir, ça bouge tout le temps. Donc là, oui, c'est très, très calme.
Et elle craint la fin de la saison.
Les gens vont pas oser revenir ou vont peut-être avoir peur, vont se dire, je viens pas cette année. On retrouvera pas, en fait, le chiffre d'affaires qu'on a perdu. Et il y a un énorme impact.
Même préoccupation pour Aurélie dans son camping. La gérante répond aux centaines de mails des clients pour les rassurer et ça fonctionne.
Il y aura vraiment cette semaine qui va être un petit peu bancale. À partir de samedi prochain, normalement, on est à 100%.
Et pour pallier aux pertes dues à la fermeture de la semaine dernière,
on a souhaité ouvrir un mois supplémentaire jusqu'à fin octobre.
De quoi, elle l'espère, limiter la casse.
L'incendie en Gironde est fixé depuis samedi. Les habitants de l'Alche-Cap-Ferré, certains quartiers du Porche, vont retrouver cet après-midi leur logement.
Et pendant ce temps, Clément, les pompiers sont également mobilisés dans le Var.
L'incendie dans le secteur de Coran s'est stabilisé, mais pas fixé, a dévasté 1850 hectares. La journée s'annonce compliquée pour les pompiers. Les conditions météo, retour des rafales de vent et la vigilance orange canicule font craindre le pire. Pour Éric Grosin, directeur départemental des pompiers du Var, le combat s'annonce encore long.
Tous les pompiers de France qui sont ici présents sont très motivés pour arriver au bout de ce sinistre. Mais je le précise, le sinistre n'est pas fixé. Cela veut dire qu'on peut avoir des reprises sporadiques à certains endroits parce qu'on a encore, au milieu de ce feu, on a encore des taches importantes de verre. Et selon le vent, on peut avoir des reprises et on peut avoir un certain nombre de brûlots encore. Donc on reste la vigilance. D'ailleurs, l'ensemble des effectifs des 1500 sapeurs-pompiers restent sur place.
Et de forts orages attendus dans le sud-ouest du pays. 7 départements, notamment de la Dordogne à la Haute-Garonne, en vigilance orange à partir de 16h.
RMC 7h33, Clément, l'État durcit le ton face aux baignades interdites.
Drapeau rouge, baignade interdite et désormais amende salée, c'est 68 euros. Objectif, éviter de nouveaux drames, 197 morts par noyade depuis le début de l'été. Est-ce une mesure suffisante? Sonia Gobry du service politique d'RMC est allée poser la question à des élus.
Ce n'est pas la recette miracle, mais ça fait partie des outils, estime Jackie Goulet, le maire de Saumur.
On prévient, on avertit, puis si on continue, on est sanctionné.
Et pour lui, plus l'amende est élevée, plus c'est dissuasif.
C'est une bonne chose qu'on passe de 38 euros à 68. C'est suffisamment significatif pour que ça vous embête passablement. C'est parfois le PV ou la peur du gendarme qui fait qu'on prend conscience du risque.
Le risque, un drame est venu le rappeler il y a 2 mois. À Saumur, un jeune de 17 ans est mort dans une zone interdite à la baignade.
Il m'est plus agréable de mettre une amende de 68 euros que d'accompagner une famille quand il y a un deuil. Parce que c'est le maire qui va l'annoncer. Et c'est particulièrement douloureux. Mais avant tout, notre rôle, c'est de faire de la prévention.
Mohamed Gnabali, le maire de l'Île-Saint-Denis, près de Paris, acquiesce.
En vérité, c'est avant tout un enjeu de sensibilisation. L'augmentation de l'amende, je ne pense pas que ça a un impact réel sur les gens.
Il est aussi vice-président des sites de baignade de la métropole du Grand Paris, qui a une stratégie.
C'est d'ouvrir un maximum de sites de baignade sur nos territoires. On vient de vivre une canicule. Franchement, ça nous aurait bien servi.
Il le répète, davantage de zones de baignade surveillées, c'est plus efficace que les PV pour lutter contre les noyades.
En tout cas, ça aussi, ça peut vous faire réagir au 32-16. Baignade interdite à cet endroit ou alors drapeau rouge et vous baignez quand même, 68 euros d'amende. Vous pensez que c'est juste ou pas? Vous nous appelez au 32-16.
En reprise des négociations aujourd'hui entre l'Iran et les États-Unis pour mettre fin au conflit, la réouverture du détroit d'Ormuz, annonce le président Donald Trump après avoir suspendu les bombardements américains sur Téhéran. Annonce qui a provoqué la chute du prix du baril de pétrole.
Clément, la rentrée approche. Bon, tout doucement, nous ne sommes que le 3 août, mais en tout cas avec elle, une nouvelle hausse des dépenses.
Cahier, cartable, basket, cette année encore tout ou presque coûte plus cher. Le budget moyen est en hausse, 488 euros par famille, soit 79 euros de plus qu'en 2025, chiffre publié aujourd'hui par Cofidis. Et Lucille Pascanet à Strasbourg, les familles cherchent la bonne formule pour limiter la facture.
Des seaux et des jets d'eau pour remplacer la mer. Cette année, faute de moyens, Marguerite et sa fille ne partiront pas en vacances.
Non, c'est pas prévu cette année.
Impossible pour cette maman d'acheter des fournitures avant le versement de l'allocation de rentrée scolaire.
On l'attend avec impatience. Donc en attendant, on va privilégier ce qui est gratuit, comme les jets d'eau ici maintenant. Il y a des choses que je repousse à fin août, effectivement.
Juste à côté, Karim et sa famille non plus n'ont pas prévu de grands voyages cet été, en prévision notamment de l'augmentation de leur budget rentrée.
Enfin, ma fille qui rentre à l'école cette année, ça rajoute plus de dépenses. Ma fille aînée qui est en cinquième commence toujours par trier ce qu'on a. On achète ce qui reste, économiser avec ce qu'on peut.
Fournitures, mais aussi vêtements, activités. Le budget moyen de la rentrée s'élève à presque 500 euros par famille. Pour Sarah, malgré le prix élevé, pas question de priver sa fille de cours de natation.
260 euros l'année pour 45 minutes par semaine, oui, c'est pas donné.
On économise en amont pour avoir les fonds le moment venu, quoi.
Selon cette étude publiée aujourd'hui, la majorité des familles absorbent ces dépenses dans leur budget courant, mais 26% d'entre elles déclare devoir puiser dans leur épargne.
RMC 7h36, le Tour de France femmes souffrent de la chaleur.
Hydratation, glace, récupération, le peloton s'organise pour résister face à la canicule. La cycliste française de l'équipe Ma Petite Entreprise, Laura Asensio, explique ce qu'elle met en place pour éviter le coup de chaud.
On met un gilet de froid, on essaye vraiment de rester au frais le plus possible avant l'étape. Et pendant l'étape, on se met de la glace et on va chercher des bidons toutes les 30 minutes pour pouvoir rester au frais. C'est quasi un job à temps plein pour une des filles qui, du coup, doit aller à la voiture chercher des bidons toutes les 20-30 minutes. Donc ça fait quand même pas mal d'aller-retour et ça fait aussi beaucoup de boulot pour l'équipe à préparer tous ces bidons et voilà, faire en sorte que ce soit bien frais.
Place à la troisième étape aujourd'hui entre Genève et Poligny. C'est à suivre sur RMC.
Et le quintet, le Clément se déroule à 16h30 en ce moment même. Et le quintet se déroule sur l'hippodrome de Clairefontaine-de-Ville et ce sera à 18h30.
Et le pronostic de la Dream Team, leur favorite est le 7 sœurs, leur outsider est le 2, Al-Saba.
Merci beaucoup. Clément, allez, tout de suite, nous allons au 32-16. Le prochain journal, ce sera à 8h. Hein. Retrouvez Sophie. Bonjour Sophie.
Bonjour Rémi.
Merci d'être avec nous sur RMC, RMC Story. On est dans l'Oise, c'est ça Sophie?
C'est ça, tout à fait, oui.
À Clermont. Clermont dans l'Oise. Vous faites quoi dans la vie, Sophie?
Je suis chauffeuse accompagnatrice d'enfants handicapés.
D'accord, très bien. Ça, c'est pas un métier simple non plus, Sophie.
Pas toujours, non.
Méritant. Sophie, vous nous appelez, non pas pour nous parler de votre métier, mais pour nous parler de votre réaction après le passage, il y a quelques instants, du maire de Neuilly-sur-Marne, sur notre antenne. Le maire de Neuilly-sur-Marne qui venait pousser un coup de gueule, tenez vos enfants, parce que dans sa commune, le parc communal a été en partie ravagé par un incendie, des enfants d'une dizaine d'années qui jouaient avec des mortiers en plein samedi après-midi et qui ont mis le feu au parc communal. Et vous vouliez réagir, Sophie?
Oui, parce que moi, je vis en cité depuis 30 ans. Je suis au même endroit, une cité plutôt tranquille dans l'ensemble. Mais c'est vrai que bon, ça a toujours existé. Les enfants, vous avez les plus grands qui veillent sur les plus petits. Sauf que maintenant, il y a une espèce de violence et de ils saccagent tout. On a des petits parcs, on a quand même de la végétation. Vous les voyez suspendus, arrachés les arbres, ils creusent des trous. Et je vois effectivement des grands qui leur donnent des jeux qui sont pas adaptés, bah, comme des mortiers, ce genre de choses, ou qui laissent traîner. Et puis bah, les gamins, ils prennent et puis ils s'amusent avec ça. Et un jour, il y aura un drame. Il n'y en a pas encore eu, et tant mieux, mais un jour ça arrivera. Et c'est vrai que les gamins sont lâchés dehors. Les parents en général, soit sont pas là, soit sont regroupés dans un autre endroit, et ils sont vraiment livrés à eux-mêmes.
Qu'est-ce que vous pensez quand le maire de Neuilly-sur-Marne met davantage en cause les parents, les certains parents démissionnaires?
Bah ouais, c'est... Je sais pas, oui, enfin oui, oui, évidemment, il y a une certaine, je dirais pas qu'ils sont démissionnaires, ils vivent, je sais pas comment dire ça, en fait, ils se reposent sur les plus grands. Moi, je trouve qu'ils se reposent sur les plus grands, quand je vous parle des plus grands, c'est des petits 3 ans, 4 ans, sur des plus grands qui ont 7, 8 ans, quoi. Ouais. Et, avant, jusqu'à 2 heures du matin, hein, on avait les gamins qui étaient dehors, qui criaient, c'est parce que maintenant, bon, bah voilà, on éteint la nuit, c'est plus tout à fait la même chose. Mais je sais pas, il y a un non-respect de toute façon de tout ça.
Merci Sophie. Merci de votre témoignage, Sophie, qui nous appelait depuis Clermont dans l'Oise. RMC, 7h40. C'est la question que se pose.
Apolline Matin.
C'est la question que se posent tous les parents cet été. Peut-on envoyer son enfant en colo sans danger? Après une série de scandales de violences sexuelles dans le périscolaire, la haute commissaire à l'enfance demande un véritable service unique de vérification des profils encadrants. Parce qu'aujourd'hui, ça n'existe pas. Sarah El Haïry est notre invitée dans un instant sur RMC et RMC Story. Bon réveil à tous, à tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Rémi Barret.
Bon réveil à tous sur RMC et RMC Story. Il est 7h44. Peut-on encore envoyer nos enfants sans crainte en colo? C'est la pleine saison des colonies de vacances et beaucoup de parents hésitent après une série de scandales de violences sexuelles dans le périscolaire. Vous l'avez entendu à Paris, à Biarritz. L'affaire Liana est également dans tous les esprits. Et Sarah El Haïry est avec nous. Bonjour Sarah El Haïry.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous sur RMC, RMC Story. Vous êtes la haute commissaire à l'enfance. Sarah El Haïry, que dites-vous ce matin aux parents qui hésitent à envoyer leurs enfants en colo? D'abord, est-ce que vous les comprenez?
Bien sûr que je les comprends, je suis aussi maman et tant que la confiance n'est pas reconstruite, elle n'est pas rétablie, oui, il y a toujours un doute et la meilleure manière de faire, c'est de continuer sans cesse, finalement, moi je crois, hein, à sécuriser les contrôles. Et encore une fois, quand on demande des contrôles, on ne jette pas la suspicion sur les animateurs ou les directeurs ou les bénévoles qui s'engagent auprès des enfants, partout. Au contraire, plus on contrôle, plus on protège ceux dont l'engagement, en réalité, écarte ceux qui n'ont pas la place à côté de nos enfants. Et parce que je crois en fait à ces séjours collectifs, parce que je crois aux colos, parce que je crois à ces temps finalement qui font grandir aussi, qui permettent d'avoir des nouveaux amis, des nouveaux apprentissages, de l'autonomie, et qui aident les familles. On va se dire les choses également pendant les vacances. Eh bien, oui, il faut renforcer les contrôles partout, parce qu'il y a des milliers de professionnels et de bénévoles qui encadrent tous les jours les séjours des enfants, qui sont intransigeants. Et donc, cette intransigeance qu'on a le droit d'avoir avec eux sur la protection des enfants, eh bien, ça les aide au quotidien. Sarah, c'est pour ça que ces contrôles ont vocation à être, à mes yeux, en tout cas renforcés et évolués.
Sarah El Haïry, vous me dites que vous êtes vous-même mère de famille. Est-ce que vous envoyez vos enfants en colonie de vacances?
Elle a 2 ans et demi. Bon. Elle est encore un peu petite.
Un peu petite, mais est-ce que vous le faites par la suite?
Bien sûr, oui, bien sûr. Mais, encore une fois, il faut continuer de renforcer les contrôles, il faut imposer des formations plus obligatoires. Aujourd'hui, un encadrant qui est écarté d'un secteur périscolaire, on en parlait tout à l'heure, ne doit pas pouvoir se retrouver dans une asso culturelle, sportive ou dans une colonie de vacances.
Parce que soyons très concrets, Sarah El-Hairy, soyons très concrets. Aujourd'hui, on parle des colonies de vacances. Moi, je le sais parce que je suis plus âgé que vous, mais j'ai une grande fille qui a 18 ans, qui est aujourd'hui animatrice en colonie de vacances. On lui a demandé, on demande toujours à un encadrant, un extrait de casier judiciaire. S'il n'y a jamais eu de condamnation inscrite sur le casier judiciaire, c'est la seule vérification qui existe à l'heure actuelle, on est bien d'accord ?
Alors, il y en a un peu plus. Effectivement, il y a le casier judiciaire et c'est la base de la base. Mais au-delà du casier judiciaire, il y a aussi le contrôle d'un fichier qui s'appelle TAM, c'est les téléprocédures d'accueil de mineurs. Concrètement, c'est un fichier qui est un fichier administratif et qui permet d'avoir des informations, par exemple, sur des comportements. C'est un fichier qui n'est pas lié à la justice. Et pas de manière automatique, il y a le contrôle du FIJAIS, qui est pour moi absolument essentiel.
C'est pas automatique fichier... aujourd'hui.
Non, exactement.
Et ça, c'est quoi ce fichier? C'est quoi ce fichier?
Le FIJAIS. Le FIJAIS, c'est le fichier des infractions, en réalité, à caractère sexuel, qui sont faites sur les enfants. Mais pourquoi le FIJAIS, il est important? Parce que ce fichier n'attend pas la condamnation définitive. Voilà. Il intègre les procédures en cours. Et moi, je considère que c'est une protection. Et c'est pour ça que, comme votre fille, mais comme, franchement, une majorité, en réalité, d'acteurs, on va dire, très largement de l'extrascolaire, des colos qui passent leur BAFA ou le BAFD, ils s'engagent pour, en fait, pour les jeunes, pour les ados, parce qu'ils y croient. Mais plus on laissera de failles, plus ils vont se retrouver avec des collègues qui viennent pour de mauvaises raisons, et parce qu'ils ont été attrapés dans une autre région, dans un autre secteur. Aujourd'hui, on a encore... faut le dire quand même, des associations qui n'étaient pas contrôlées parce qu'elles n'étaient pas sous le statut des accueils collectifs de mineurs. Dès le moment que c'est une colo déclarée, c'est un statut qui est particulier et il faut envoyer son bulletin de casier judiciaire. Moi, ce que je veux, c'est que en réalité, ce contrôle il soit beaucoup plus régulier et beaucoup plus permanent. Imaginons, un des animateurs se fait mal et donc au moment où on doit monter dans le train, en fait dans la nuit, on cherche un remplaçant. Les informations de ce remplaçant ne seront pas envoyées en réalité au service.
On n'aura pas le temps de
vérifier. Et moi, ce que je souhaite, exactement, c'est d'élargir en réalité quelque chose de plus permanent. Je l'ai fait avec la protection pour le coup de l'ASE plus les crèches. Ça s'appelle le certificat d'honorabilité. L'idée, c'est que ils puissent venir avec un document qui prouve que oui. Au moment où il vous parle, parce que c'est à lui de l'avoir et ça dure 6 mois, au moment où il vous parle, le FIJAIS a été contrôlé, le casier judiciaire a été contrôlé. Ça veut pas dire qu'on va jusqu'au bout et on va jusqu'au TAM, mais au moins, à l'instant T, de manière permanente, on a ces contrôles. Et c'est ça la preuve de confiance. C'est comme ça que les enfants n'auront, les parents n'auront plus peur et que
Sarah El-Hairy, il y a quelques jours, un homme de 73 ans a été interpellé dans un TGV après un signalement de passager. Il visionnait des images pédopornographiques sur son ordinateur pendant ce voyage. Est-ce que, quand on voit ça, alors déjà, est-ce que vous saluez la réaction des passagers et est-ce que nous sommes, alors je sais que ça va paraître un peu fort ce que je vais dire, mais nous sommes entourés potentiellement partout de pédocriminels ?
Ah ben pour le coup, malheureusement, oui. Aujourd'hui, le numérique, il a fait accélérer de manière inédite des comportements de pédopornographie, de pédocriminalité. C'est 950 000, en réalité, contenus qui sont détectés signalement.
C'est énorme.
C'est pas un peu, c'est énorme. Et sincèrement, ça a pas de visage. Ça peut être un vieux monsieur, ça peut être un plus jeune, ça peut être dans un train, dans un car, dans la maison de vacances en famille, parce que malheureusement, 70 à 80% des violences sexuelles sont faites par quelqu'un qu'on connaît.
On l'a compris.
Et qui est famille.
On l'a compris, le chantier est très vaste. Merci beaucoup Sarah El-Hairy d'avoir été avec nous, au commissaire à l'enfance. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur RMC, RMC Story. Allez, dans un instant, le portrait du jour, Victor.
Un général russe, le boucher de Boutcha, ciblé semble-t-il par une attaque en plein Moscou.
Allez, à tout de suite sur RMC et RMC Story.
RMC, Apolline Matin.
Le bonus RMC de Charlène Villemer, la chanteuse Charlène Taïla vient d'annoncer sa tournée mondiale et elle fait escale à Paris, ce sera en octobre prochain.
Et c'est justement ce ce titre Water qu'il a révélé au grand public il y a 3 ans. Chanteuse, compositrice et danseuse sud-africaine, Tyla, c'est 14 000 abonnés sur les réseaux sociaux et 2 Grammy Awards à son actif. Avec son premier album en 2024, elle réalise un record historique. Ce premier disque devient le projet le plus écouté d'une artiste noire cette année-là. Sur Spotify, c'est mieux que Beyoncé. Et avec ce nouvel opus, eh bien, une nouvelle tournée arrive à Paris. Elle sera donc le 12 octobre prochain au Zénith de la Villette, Et en attendant, vous pouvez écouter son album Apoc, le deuxième opus.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Rémi Barret.
RMC 7h53, le portrait du jour avec Victor Pourchet. Ce matin, Victor, on revient sur ce que le maire de Moscou qualifie d'attentat. Une explosion dans un café qui aurait eu pour cible Alexandre Tchaïko.
Oui, c'est l'un des plus importants généraux russes et comme toujours, le Kremlin ne confirme pas facilement les choses. Alors, il faut faire avec les informations qui nous arrivent de médias et de chaînes Telegram russes. Ce qui est sûr, c'est d'abord le lieu, le Balzirossi, restaurant huppé de la capitale russe, parfait pour l'anniversaire d'un haut gradé. Par exemple, ça tombe bien, Tchaïko venait d'avoir 55 ans. Ce que disent plusieurs sources, c'est qu'il organisait bien dans ce restaurant une fête ce soir-là. Le reste du déroulé des faits, c'est une femme qui arrive à l'accueil avec ce qu'elle présente comme un cadeau, l'agent de sécurité qui la refoule, le cadeau qui explose, au moins 5 morts. A priori, Tchaïko en aurait réchappé. Après, il y a la théorie de la coïncidence, simplement, avec 5 généraux ou personnalités pro-Poutine tués par des explosifs cachés ces dernières années. Il y a comme une ressemblance, comme un mode opératoire. Notez que l'Ukraine, à l'heure qu'il est, n'a rien revendiqué et que la Russie ne l'a pas accusé.
Et Victor Alexandre Tchaïko, c'est un pilier du régime de Poutine.
Oui, en 2020, le président russe l'élève au rang de héros de la nation. Il a aussi tout récemment été promu commandant en chef des forces aériennes. Entre les deux, il y a eu le début de l'invasion en Ukraine, Alexandre Tchaïko, homme de terrain au premier jour. C'est le plus haut gradé russe en territoire ukrainien. Sa spécialité, selon Kiev, s'attaquer aux civils. Exemple le plus sanglant à Boutcha, ville ukrainienne aux 400 cadavres déterrés où l'armée russe est accusée de meurtre de masse, d'exécution sommaire, de viol et de torture. Tchaïko est désigné comme l'un des responsables par l'Union européenne. Alors, gros CV dans l'armée russe, oui, mais pas vraiment le premier sur la liste pour le prix Nobel de la paix.
Merci beaucoup, Victor. RMC, 7h55.
RMC,
dans vos villes.
Tout l'été, des reportages près de chez vous, 4 mois après les élections municipales. Ce matin, avec Pierre Bourgès, on part à Bordeaux rencontrer Thomas Cazenave, le nouveau maire issu du parti macroniste. Il a été élu face au maire sortant, l'écologiste Pierre Urmic. Il joue l'opposition jusqu'au bout. La première mesure du nouveau maire de Bordeaux a été de rallumer l'éclairage public éteint par son prédécesseur.
Thomas Cazenave nous a donné rendez-vous à quelques rues du centre de Bordeaux. Nous le retrouvons dans un quartier qui porte le symbole de sa première mesure en tant que maire.
Ici, on est dans un quartier qui, la nuit, était intégralement plongé dans le noir. Tous les lampadaires que vous voyez là étaient éteints la nuit. Depuis le fait, la décision que j'ai prise de rallumer la lumière, ici, la nuit, le quartier est éclairé.
Environ 20% de la ville était plongée dans le noir entre 2h et 5h du matin. Décision prise par l'ancien maire écologiste Pierre Urmic. Thomas Cazenave l'assume. Avec cette mesure, il veut marquer une rupture avec son prédécesseur.
C'était très important de montrer qu'il y a un changement. Et c'est vrai aussi que ça fait partie des changements qu'on peut prendre le plus rapidement.
Une décision qui a un coût, 400 000 euros par an, que le maire compte réduire en accélérant le changement des ampoules par des LED moins énergivores. Mais ces frais supplémentaires ne passent pas auprès d'Olivier Cazot, élu d'opposition écologiste.
Il faut rappeler quand même qu'on a fait ça pour un souci d'économie. En 4 ans, on a quand même économisé 2 millions d'euros à peu près de factures d'électricité. À la municipalité, c'est quand même assez important de faire quand même des économies. Il n'y a aucun chiffre qui viennent corréler que l'insécurité est liée avec l'obscurité.
Mais dans les quartiers où l'éclairage a été rallumé la nuit, la réaction des habitants que nous avons rencontrés est unanime.
Les gens vont être plus rassurés, avoir moins peur de sortir. Enfin, moi, je trouve ça bien. Peu importe pour quelle partie on est, on veut tous être en sécurité. Donc, moi, je trouvais ça, l'idée, je la trouvais bien et j'étais d'accord pour rallumer.
Moi, personnellement, en étant une fille, c'est pas super rassurant.
quand on sort la nuit et que c'est pas allumé, parce qu'on a forcément ce tic de regarder un peu partout s'il n'y a pas des gens qui suivent ou quoi.
T'as sentiment de moins être obligé de faire attention, c'est un peu plus sécurisant. Si c'est censé coûter un peu plus cher, on parle de sécurité aussi en fait. S'il faut qu'on mette un peu plus d'argent sur ce sujet-là, par exemple, ça me paraît pas totalement incohérent.
Mais alors, dans les prochaines années, l'écologie sera-t-elle oubliée au fond d'un placard de la mairie de Bordeaux ? Thomas Cazeneuve s'en défend.
Moi, j'ai toujours dit la transition écologique, c'est pas un parti. Moi, je suis pas un climato-sceptique. J'ai des ambitions écologiques. Je considère juste que les méthodes qui ont été employées, par exemple, éteindre la nuit de manière très brutale, je trouve que c'était pas les bonnes décisions. Mais moi, je suis pleinement conscient du défi climatique.
La preuve, selon lui, c'est sa prochaine mesure, celle de rénover les écoles mal isolées pour faire face aux températures de plus en plus chaudes, de plus en plus tôt dans l'année.
Merci Pierre Bourgès. Allez, dans un instant, le journal de 8h avec à la une la Gironde qui commence à souffler après le méga incendie. Nous serons en direct de Lège, Cap Ferret. Bon réveil à tous, à tout de suite sur RMC et RMC Story.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
RMC, il est tout juste 8h.
RMC, Apolline Matin.
Et tout ce qu'il faut savoir sur l'actu, c'est avec Clara Gabi. Rebonjour Clara.
Rebonjour Rémi, bonjour à tous. Encore des jours à venir de lutte contre les flammes dans le Var. Incendie stabilisé mais pas fixé. Face à des conditions météo difficiles, les pompiers sont toujours sur le qui-vive. Nous serons sur place en direct dès le début de ce journal. Entre boule au ventre et impatience, après plus de 10 jours d'évacuation, des habitants du bassin d'Arcachon vont retrouver leur maison aujourd'hui. Et puis verra-t-on une Française briller sur la troisième étape du Tour de France Femmes aujourd'hui, étape entre Genève et Poligny dans le Jura.
Clara, dans le Var, les pompiers n'en ont toujours pas terminé avec les flammes.
Ils sont 1500, toujours mobilisés pour lutter contre toute reprise de feu. La situation est stable, les évacuations et les confinements ont été levés, mais la chaleur et le vent annoncés font redouter le pire. 1850 hectares déjà partis en fumée. Rachel Sadodine, vous êtes l'envoyée spéciale d'RMC dans le Var, en direct avec nous depuis Corrence, où un gymnase a été mis à la disposition des pompiers. Rachel, c'est un travail de longue haleine qui les attend encore.
Oui Clara, une tasse de café ou un bol de céréales à la main, les pompiers reprennent des forces après une courte nuit passée sur des lits de camp, ici donc à la salle municipale de Corrence. Venus de toute la France et même pour certains de Roumanie, les soldats et soldates du feu affichent des visages souriants ce matin et pour cause, les températures ont baissé cette nuit, l'humidité est remontée, quelques rares mais précieuses gouttes de rosée glissent même de certaines feuilles. Les habitants de Corrence sont venus leur préparer le petit déjeuner comme Chantal, 56 ans, elle a pu échanger quelques mots avec les pompiers.
Bon, ils sont épuisés, hein, après ils se relaient, mais bon, ils font tout leur possible, ils ont sauvé pratiquement toutes les maisons. Voilà, ils sont encore là, de toute façon, hein, parce qu'on ne sait pas si ça, c'est fini ou pas. Quoi. Là, avec le vent, ça peut reprendre, on est sûr de rien. Quoi.
Ils ont peur qu'il fasse un peu chaud aussi ?
Aussi, ben oui. Hein. Et puis en plus, il ne pleut pas, quoi. C'est sec, terrible.
Puis si vous avez eu une petite confidence de pompiers ce matin, qu'est-ce qu'ils vous ont dit ?
Ils ont dit qu'il manquait de moyens aussi.
Ils espèrent de nouveaux renforts aériens aujourd'hui, car avec le vent fort annoncé et la vigilance orange canicule jusqu'à 37 degrés attendus cet après-midi, la journée risque d'être encore longue.
Rachel Sadodine en direct de Corrence dans le Var pour RMC. En Gironde, il faudra peut-être encore plusieurs mois pour entièrement venir à bout du méga-feu, estiment les pompiers, bientôt épaulés par des collègues d'Ukraine, de Lituanie et même de Polynésie française. La situation pour l'heure est toujours stable et de nombreux habitants vont enfin rentrer chez eux aujourd'hui. Ceux du Porge dès 14h, commune la plus touchée par l'incendie, puis à 19h, ceux de Lèche-Cap-Ferret où Dominique n'a qu'une hâte, retrouver sa maison de vacances.
Enfin quoi, enfin. C'est long, 11 jours comme ça, à avoir régulièrement toutes ces informations, toutes ces images. Et quand je vais partir, déjà je ne vais pas traîner et j'aurai une certaine angoisse parce que on va sûrement passer dans des endroits qui ont été impactés par le feu. Je vais surtout voir si sur ma terrasse il y a des cendres, tout ça. Peut-être aérer la maison parce que les odeurs de fumée, ça s'infiltre partout. Je ne sais pas ce qui m'attend, honnêtement, on verra.
Et il faudra encore patienter un peu dans les campings évacués. Pas d'autorisation pour l'instant. Une opération de déminage est en cours. Des obus de la Seconde Guerre mondiale ont été découverts dans plusieurs communes. Des orages attendus en fin de journée dans le sud-ouest. 7 départements en vigilance orange à partir de 16h, de la Dordogne jusqu'à l'Ariège.
Mais Clara, cet incendie-là aurait largement pu être évité.
Plus de 2 hectares partis en fumée avant-hier dans un parc de la ville de Neuilly-sur-Marne, en Seine-Saint-Denis. C'est en région parisienne à cause de mortiers d'artifice avec lesquels auraient joué des enfants de 10 ans. Le maire de la ville dénonce ce matin sur RMC un acte grave et l'irresponsabilité des parents. Colère partagée à Neuilly-sur-Marne. Amine Lafchin.
Devant la terre brûlée, le regard pantois de Fatia, venue constater les dégâts dans ce parc qu'elle apprécie tant, cette habitante a du mal à trouver les mots.
Là, c'est vraiment... Il n'y a plus rien. Ah ouais, c'est sec, il n'y a rien. Là, je suis choquée. Vraiment choqué.
Mais ici, ce qui fait surtout réagir, c'est que 3 enfants d'une dizaine d'années sont à l'origine de l'incendie.
En tant que parent, on peut être que choqué, quoi, puisque qui laisserait ses enfants jouer avec des mortiers. Je me demande aussi surtout où est-ce qu'ils s'en sont procurés, parce qu'à 10 ans, je ne peux pas comprendre comment ça a pu échapper aux parents, en fait.
C'est pas tolérable, quoi. Je comprends pas. Les parents devraient faire plus attention à leurs enfants.
Vous comprenez la colère du maire ?
Ah oui ? Ah bah il y a de quoi ?
D'autres comme Mathieu tempèrent et évoquent une bêtise qui a mal tourné.
Des enfants de 10 ans, c'est très facile à accuser. Bien sûr, ils ont fait leur bêtise, mais les herbes étaient séchées et elles faisaient à peu près... on va dire 50-70 cm de haut et depuis longtemps.
Selon lui, l'absence de débroussaillage de la végétation a favorisé la propagation de l'incendie.
Le reportage d'Ameline Lafchin. Des douches de plage qui coulent à flot en pleine alerte sécheresse. C'est ce qui se passe en ce moment à Antibes dans les Alpes-Maritimes où l'alerte renforcée pour la sécheresse oblige normalement à fermer les douches sur la plage, ce que refuse de faire le maire de la ville, Anna Jojard.
À peine sortie de la mer, Florine en profite pour se prendre une douche bien fraîche.
C'est très pratique pour quand on sort de l'eau avec le sel, c'est du sel, avec moins collant, ça tire moins la peau, je trouve.
Des douches qui devraient pourtant être fermées. Ordre de la préfecture en cette période de restriction d'eau. À la place, on peut lire des affichettes collées sur le portant des douches.
Une douche suffit, il ne faut pas appuyer sur le bouton plusieurs fois, il ne faut pas remplir les bouteilles d'eau avec ou les seaux d'eau. Quoi.
Des gestes de bon sens, pas toujours respectés sur cette plage.
Si vous regardez, il y a un gamin là, il vient, il repart, il sort et se rince de nouveau.
Ça appuie, ça réappuie.
Ça fait 2 mètres sur le sable, ça va rincer les chaussures, ça revient. Oh non, mais c'est infernal.
Au point que certains regrettent que ces douches restent ouvertes.
C'est du gaspillage.
Ça sert à rien en fait. On va aller se doucher à la maison, ça fait beaucoup de gaspillage.
Mais la mairie reste sur ses positions pour des raisons sanitaires, explique Éric Duplé, adjoint au maire.
Il peut y avoir des micro-algues, des micro-plastiques ou même de temps en temps des quelques bactéries qui traînent par là. De toute façon, quand vous allez rentrer chez vous, vous allez vous baigner avec la même eau et ça dépensera de l'eau aussi.
Et il estime que ces douches de plage représentent 3% de l'eau totale utilisée par sa commune.
Ah, ça a fait réagir en plateau pendant la diffusion de ce reportage. Des douches de plage qui coulent à flot en pleine alerte sécheresse. Ça vous choque ou pas? Vous nous appelez au 3216.
Le bilan s'alourdit à Ceuta, cette enclave espagnole frontalière avec le Maroc. Selon Madrid, au moins 72 morts parmi les dizaines de milliers de personnes migrantes. Selon le gouvernement espagnol, la quasi-totalité d'entre elles ont depuis été renvoyées au Maroc. Des passages illégaux qui alimentent la crise politique. Plusieurs pays, dont l'Italie, appellent à exclure l'Espagne de l'espace Schengen. Mais Thomas Becker, service politique d'RMC, Paris est aux côtés de Madrid. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, organisera demain une réunion avec ses homologues européens.
Oui, face à la vingtaine de pays, principalement emmenés par l'Italie, qui compte mettre la pression sur l'Espagne, la France se placera en solidarité de son voisin, comme le Portugal, pour dénoncer une instrumentalisation de ce que l'entourage du ministre de l'Intérieur français présente comme une crise ponctuelle. Laurent Nunez, qui prévoit de rappeler à l'occasion de cette réunion 2 éléments. D'abord, Ceuta est bien dans l'espace Schengen, mais les contrôles au départ et aux arrivées sont systématiques. Aucun migrant n'a rejoint le continent à l'aune de cette crise, précise Beauvau. Ensuite, le ministre compte rappeler que sur ces 5 dernières années, le principal pays d'entrée des migrants illégaux en Europe est l'Italie, près de 480 000 clandestins, plus du double par rapport à l'Espagne. La France se place clairement en solidarité du gouvernement Sanchez, le seul dirigeant socialiste revendiqué des pays membres de l'Union européenne.
Thomas Becker, service politique d'RMC. Les négociations entre les États-Unis et l'Iran reprendront aujourd'hui, annonce de Donald Trump dans la nuit, après avoir dit renoncer à frapper Téhéran, qu'il menaçait d'une nouvelle attaque majeure.
Clara, ce matin, tu joues les oiseaux de mauvaise augure. Vacances, j'oublie tout, mais plus pour très longtemps.
Et oui, c'est la reprise pour certains juilletistes aujourd'hui et il va falloir se motiver pour ces vacanciers de retour à Paris rencontrés en gare Montparnasse hier soir.
Flemme extrême, mais il faut bien y aller. J'ai préféré être à la plage. Mais bon, j'accepte.
Réfléchir à caler ses prochaines vacances.
Ça peut être une bonne activité de retour au travail.
Je trouve que les vacances, c'était bien. C'était long, c'était reposant. Bah, je suis pas si mécontent de revenir aussi. On est plus tranquille, c'est plus posé. En vrai, c'est pas si mal de bosser en août.
Ah non, j'ai la tête dans le sable, dans les vagues, mais pas du tout envie de reprendre, quoi. Me réveiller à 4h30, ouais, ça va être compliqué. 2 semaines, c'est trop court, je pense. Il faut vraiment 3 semaines pour se reposer réellement, je pense. Faut y aller, et puis on n'a pas le choix, de toute façon, hein. Faut bien manger.
Allez, courage à tous ceux qui reprennent.
Il en faut.
Pour vous consoler, tiens, le Tour de France Femmes qu'on vit ensemble sur RMC. 3e étape aujourd'hui entre Genève et Poligny dans le Jura. Hier, c'est la néerlandaise Lorena Wiebes qui l'a une nouvelle fois emportée. Mais les Françaises pourraient se démarquer aujourd'hui et pas seulement Pauline Ferrand-Prévot, Pierre Thévenet.
Oui, sur les routes du Jura, entre Genève et Poligny, une coureuse comme Cédrine Kerbol pourrait briller.
Évidemment, on a envie de bien faire, d'en mettre partout, de se faire plaisir surtout. Sinon, on ne ferait pas de vélo et puis le reste suivra.
La Bretonne est habituée à être à l'avant sur le Tour de France. Elle a remporté une étape il y a 2 ans. Sa compatriote Émilie Morier a la même ambition. Elle a déjà tenté d'attaquer à Lausanne il y a 2 jours.
Ouais, moi je me sens vivante quand je m'échappe, quand je joue sur mon vélo. Donc bon, c'est le vélo que j'ai, mais bon, il faut que je reste patiente. Mais je sais que physiquement, je vois que ça marche bien, ouais.
On va te revoir à l'avant.
Ouais, bah, c'est le but, hein.
L'étape du jour avec 4 ascensions aurait parfaitement correspondu à Maëva Skiban, la Bretonne, qui avait raflé 2 étapes en solitaire l'an dernier, mais qui n'aura pas la même liberté.
Bah, cette année, l'objectif principal, c'est le classement général encore, bien sûr, pas avec moi. Hein. Voilà, je serai là pour aider les filles d'équipe. Ce qui s'est passé l'an dernier, c'est pas forcément ce qui se passera cette année.
Maëva Skiban retenue par son rôle d'équipière, Pauline Ferrand-Prévot concentrée sur le classement général. D'autres coureuses vont devoir prendre des risques aujourd'hui pour gagner et, contrairement aux hommes, offrir une victoire d'étape française au public.
Étape à vivre à partir de 15h dans l'intégral tour sur RMC.
Merci Clara, et prochain journal ce sera à 8h30. Allez, on prend tout de suite la direction de Corrence dans le Var. Bonjour Nicole Ruland.
Bonjour.
Merci d'être avec nous Nicole Ruland. Vous êtes la maire de Corrence, donc 3 jours sans eau, sans électricité, sans téléphone. Votre commune est confrontée aux incendies, elle est restée totalement coupée du monde depuis vendredi dernier, encerclée par les flammes. Alors tout d'abord, Nicole Ruland, quelle est la situation ce matin? Est-ce que les habitants peuvent aller et venir librement dans la commune?
Oui, depuis hier soir, le préfet a autorisé l'ouverture de la départementale 45, qui est aujourd'hui encore notre seul accès, mais bon, on est bien content de l'avoir. Pour ce qui est de la situation, on a eu une grosse intervention d'Enedis sur notre commune pour mettre des groupes électrogènes un petit peu partout pour essayer d'alimenter les forages. Donc l'eau est revenue dans le réseau et l'électricité aussi. Hier, on a eu des grosses difficultés parce qu'on n'avait plus non plus de télécommunications et mobiles en particulier, ce qui rendait la tâche des secours très difficile puisqu'ils n'avaient plus de liaison. Même la liaison radio était compliquée. Donc, Orange est intervenu hier et on a au niveau aujourd'hui des possibilités de réseau sur notre commune, ce qui est déjà une bonne chose.
Combien d'habitants à Corrence, Nicole Ruland?
900.
900 habitants. Vous avez été surpris par la violence, par la rapidité de cet incendie?
C'est incroyable. Les pompiers eux-mêmes n'ont jamais vu ça. On est dans des conditions de sécheresse extrême, avec des températures qui avoisinent les 40 degrés, un vent qui est tourbillonnant, qui change tous les jours de direction. Hier, on avait un vent d'ouest, aujourd'hui c'est un vent d'est, donc le feu s'en va un jour d'un côté et le lendemain il revient dans l'autre sens pour brûler ce qui reste à brûler. C'est très anxiogène.
Le bilan, c'est quoi le bilan ce matin matériel?
Alors le bilan matériel, on a la confirmation de 5 ou 6 maisons qui sont complètement détruites. Les personnes peuvent regagner leurs habitations seulement depuis hier soir. Donc je pense qu'on aura un bilan plus précis dans la journée puisque les gens vont venir déclarer leur sinistre en mairie.
Sans compter la végétation, c'est la quasi-totalité de la végétation qui a brûlé.
Alors toutes les... toutes les forêts de notre commune ont été parcourues, ce qui veut dire que elles n'ont pas toutes brûlées, mais elles ont toutes été impactées. Il y a encore des poches de verre qui sont en ce moment, tous les après-midi, l'objet de reprises. Écologiquement, c'est une catastrophe. Mais ça, c'est pour l'après.
Il faudra passer à l'après rapidement. Merci beaucoup, Nicole Rulan, maire de Corrence, d'avoir été avec nous en direct donc de Corrence dans le Var. RMC, 8h13.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Ouais, le front des incendies, après 10 jours d'incendie, des dizaines de milliers d'hectares partis en fumée, des centaines de maisons brûlées, ça c'est la Gironde. Le méga-feu a enfin été fixé ce week-end, mais pour les sinistrés, comment s'en parler là déjà à l'instant avec la maire de Corrence. Une autre épreuve désormais, celle des assurances. Quand pourront passer les experts? Quels seront les délais pour signaler un sinistre, pour être dédommagé? On fait le point dans un instant avec Olivier Moustakakis, il est le directeur général d'Assureland. A tout de suite sur RMC et RMC Story.
RMC, Apolline Matin. RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Rémi Barret.
RMC 8h17, après le méga-feu en Gironde, enfin fixé depuis samedi pour les sinistrés, commence maintenant un parcours du combattant, faire jouer les assurances. La préfète Sophie Brocas a promis d'accélérer le passage des experts. Bonjour Olivier Moustakakis.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur RMC. Vous êtes le directeur général d'Assureland, comparateur d'assurance en ligne indépendant. Concrètement, on va tout de suite être concret, Olivier Moustakakis. Un sinistré, là, aujourd'hui, en Gironde, ce matin, dès aujourd'hui, qu'est-ce qu'il doit faire? Les habitants du Porge et de l'Eche-Cap-Ferré, par exemple, qui vont pouvoir revenir chez eux à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce que je fais d'abord par rapport à mon assurance?
Alors, la première chose à faire, c'est déjà de contacter son assureur pour faire une déclaration de sinistre. D'accord? Ça, c'est le premier point indispensable. Alors, les assureurs ont prévu une extension, Vous avez jusqu'au 31 août pour faire votre déclaration. Le principe, c'est de ne pas attendre. À partir du moment où vous rentrez à votre domicile, vous constatez l'étendue des dégâts, immédiatement, vous prenez des photos, vous contactez votre assureur pour qu'il puisse ouvrir immédiatement votre dossier pour votre sinistre. Premier point, d'accord. Ensuite, il y a deux cas de figure possibles. La grosse majorité des dossiers, d'accord, parce qu'il va falloir que ce soit expertisé, peuvent être traités très rapidement. Quand je dis très rapidement, c'est-à-dire indemnisation sous quelques semaines, puisque la télé-expertise s'est répandue maintenant depuis 2020. Donc les experts peuvent intervenir à distance, par visio, ou simplement via une vidéo, d'accord, pour les sinistres de faible étendue, d'accord. Là où ça se complique, c'est pour les maisons qui ont été entièrement détruites, et on le voit malheureusement cette année.
Quand il n'y a plus rien, quand je n'ai strictement plus rien, j'ai plus de papier, mais les factures, j'ai plus rien, je fais comment?
Alors là, c'est plus compliqué en effet, parce que là, il va y avoir une obligation de passage d'un expert sur site, qui va devoir faire des maîtrises précis, constater, mesurer l'étendue des dégâts, pour ensuite remettre son rapport. Et là, malheureusement, ça peut prendre plusieurs semaines, parce qu'il faut déjà qu'il ait accès à la zone. Toutes les zones aujourd'hui ne sont pas encore forcément accessibles. Premier point, d'accord. Ensuite, il va falloir que lui détermine par rapport à des photos que vous aviez prises de votre habitation. Quand même, si vous avez conservé des factures sur vos relevés bancaires, il faut pas hésiter à transmettre tous les éléments possibles à l'expert. Mais ça va prendre malheureusement plusieurs semaines pour déterminer le montant, si vous voulez, de la première indemnisation.
Une question cruelle, je me mets à la place de ceux qui ont tout perdu. Quand je suis assuré, je peux pas me faire aider par mon assurance, pour rassembler tout l'ensemble de ces documents. C'est compliqué quand on a tout perdu.
Alors, transmettre des photos, vous avez forcément, je l'espère, des photos de votre habitation quand elle était en très bon état, d'accord? Donc des photos qui sont récentes, avant malheureusement le sinistre qui vient de se produire. Donc transmettre tous ces éléments-là à l'expert, qui va les consolider, d'accord? Et ensuite, le mécanisme, parce que les gens ne comprennent pas forcément comment ça fonctionne, l'assureur indemnise en fait la reconstruction en deux versements distincts. D'accord. Le premier versement, en fait, c'est ce qu'on constitue la valeur d'usage, c'est-à-dire que l'expert va chiffrer le coût de la reconstruction en neuf. D'accord. Ensuite, il va déduire dans un premier temps la vétusté, donc l'usure du bien, par exemple l'âge de votre toiture, l'électricité, si elle a été refaite il y a 10 ans, etc. D'accord. Et ensuite, il y a deux cas de figure possibles. Le second versement permet de récupérer, par exemple, la vétusté si vous avez souscrit un contrat valeur à neuf. D'accord. Et que vous reconstruisez effectivement dans les 18 mois, 2 ans, d'accord? Là, ensuite, l'assureur vous versera le complément, D'accord. Donc, au total, la reconstruction sera bien financée à neuf. Mais ça se fait en deux versements différents. Donc, il est essentiel, si vous voulez, que les assureurs versent rapidement le premier acompte, d'accord, pour pouvoir commencer, si vous voulez, les travaux.
Il y a également la question, parce que là, on parle des particuliers, des entreprises. On pense notamment à celles qui n'ont pas été touchées directement par l'incendie, mais dont l'activité a été complètement stoppée. Qu'est-ce qu'on fait pour elles?
Alors, s'il n'y a pas eu de dommages directs, hein, on va se retrouver dans une situation malheureusement qu'on a vécue hein, lors du Covid, d'accord. La majorité des contrats prévoit une indemnisation si vous avez souscrit par exemple une garantie perte d'exploitation, d'accord. Mais à partir du moment où il y a eu un dommage, donc si l'entreprise n'a subi aucun dommage, simplement le fait qu'elle n'est plus accessible, que l'activité s'est arrêtée parce que personne ne peut accéder pendant une période de temps plus ou moins importante sur l'entreprise et sur site, tout va dépendre du contrat que vous avez souscrit. Si vous avez souscrit un contrat perte d'exploitation avec ce type d'option, vous pouvez être indemnisé en perte d'exploitation, mais la majorité des contrats, les contrats, on va dire, standards, excluent hein, ce genre de choses. Il faut vraiment qu'il y ait eu un dommage direct pour pouvoir être indemnisé en perte
d'exploitation. Sachant qu'il y a 23 000 entreprises qui ont été touchées par cet incendie en Gironde. C'est phénoménal.
Assez phénoménal, hein, puisque si on se réfère à 2022, hein, on avait eu, je crois, près de 19 habitations qui avaient été touchées. Là, déjà, on parle de plus de 150, voire 200 habitations qui ont été
touchées. 240 maisons totalement détruites et 183 rien que dans le village du Porche,
voilà, par exemple. Clairement, le coût va être très supérieur à celui hein, qui a été indemnisé en 2022. Mais bon, après, la bonne nouvelle, c'est que la garantie incendie existe, et c'est la garantie, on va dire, de base hein, de la plupart des contrats. Donc, les gens seront indemnisés. Voilà, toute la difficulté. Ensuite, par exemple, pour les reconstructions, ben, ça va être la mobilisation des artisans. Est-ce qu'ils sont disponibles ou pas? D'accord? Est-ce que les matériaux sont disponibles ou pas? C'est ça, in fine, les véritables goulots d'étranglement.
Et une autre question, forcément... Face à ce type de catastrophe qui se multiplie, les primes d'assurance vont augmenter pour l'ensemble des Français.
Alors, les primes d'assurance, on le voit hein, depuis plusieurs années, avec l'augmentation de la sinistralité, notamment sinistralité climatique, augmente année après année. Entre 2025 et 2026, on a encore subi une hausse de 13%, ce qui est très important. Hein, d'accord. Alors, oui, les incendies vont faire augmenter, entre guillemets, la facture, mais ça reste quand même derrière, si vous voulez, les phénomènes de grêle, les phénomènes d'inondation, les autres sinistres. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'incendie en habitation, par exemple, c'est le sinistre le moins fréquent, fort heureusement, d'accord, le plus coûteux, mais le moins fréquent. Voilà, donc il y a d'autres sinistres, malheureusement, qui seront devant en termes d'augmentation des
tarifs. Une dernière question très rapidement, Olivier Moustakakis. C'est une vue de l'esprit ou pas, quand on dit que parfois les assureurs, certains assureurs en tout cas, traînent un peu des pieds pour rembourser?
En l'occurrence, c'est tout l'inverse, parce que les assureurs n'ont pas intérêt à traîner des pieds, puisque dans les contrats, il est prévu la prise en charge des frais de logement hein, sur des périodes plus ou moins étendues. Hein, ça peut aller jusqu'à 12 mois et voire plus, hein, selon les contrats. Donc les assureurs ont intérêt, au contraire, à indemniser rapidement. Le vrai goulot d'étranglement, c'est pas les assureurs. C'est un, l'accès aux zones. Deux, la mobilisation des experts. Et ça dépend pas malheureusement des assureurs directement. D'accord. Pour avoir un chiffrage précis et pouvoir commencer à verser les premiers acomptes. Donc là où les assureurs, en revanche, peuvent intervenir, c'est se mobiliser, mais je pense que ça va être le cas, puisque déjà ils ont étendu hein, spontanément, c'est pas le gouvernement hein, qui leur a demandé de le faire, les déclarations de sinistre. Ils ont pris en charge également les frais de relogement des personnes, même si elles n'avaient pas été touchées par l'incendie.
Directement, ouais.
D'accord.
Tout à fait.
Donc ça, c'est une mesure directe des assureurs. Et là, je pense qu'ils vont se mobiliser de la même façon pour essayer de verser le plus rapidement possible les premiers acomptes pour que les gens puissent se mobiliser, mobiliser des entreprises pour commencer les travaux.
Merci beaucoup, Olivier Moustakakis, d'avoir été avec nous, directeur général d'Assureland, comparateur d'assurance en ligne, indépendant, RMC, 8h24. C'est l'heure de l'écho avec Pierre Rondeau, notre économiste sur RMC, enseignant également à Paris 1, Panthéon, Sorbonne, Tolbiac.
Exact.
Pierre Rondeau qu'on connaît bien, puisque tu interviens très régulièrement, également dans Estelle Midi sur RMC. Alors Pierre, depuis hier, les dispositions de l'IA Act sont entrées en vigueur sur le continent européen. on parle de l'intelligence artificielle du quotidien. Voilà, j'ai mon moteur, enfin mon application d'intelligence artificielle que j'utilise tous les jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça change, l'IA Act?
Alors, c'est la réglementation sur l'intelligence artificielle considérée comme la plus puissante de la planète qui a été votée il y a 2 ans. Et c'est depuis hier que les premières applications sont mises en place. Concrètement, certaines pratiques comme l'utilisation de l'IA pour tromper ou manipuler les personnes pour exploiter les vulnérabilités sont désormais interdites et sanctionnées. Et les publications générées par l'IA ont dorénavant l'obligation d'être identifiées et étiquetées à travers un logo noir et blanc.
Ça veut dire quoi?
Alors, par exemple, sur les réseaux sociaux, Instagram ou TikTok, des vidéos générées par l'IA ont maintenant l'obligation de faire apparaître cette mention. Pour les publicités, si une marque ou une campagne de pub utilise de l'intelligence artificielle pour générer et produire du contenu, elle a l'obligation de préciser et de faire apparaître la mention. Et pour la musique et la littérature, c'est un tout petit peu plus complexe. Il va y avoir une distinction entre un pur contenu deepfake qui imite ou singe une œuvre connue, hein, par exemple générer une musique dans le style de Taylor Swift, générer un livre dans le style de Victor Hugo, et une œuvre artistique et créative où l'IA est utilisée comme un soutien et un assistant. Dans le premier des cas, il y a obligation de faire apparaître publiquement la mention IA, et les plateformes peuvent même faire interdire ces musiques ou ces livres. Et dans le deuxième cas, l'œuvre artistique, le texte précise que cette mention doit se faire d'une manière appropriée qui ne nuit pas à la présentation ou à la jouissance de l'œuvre. Autrement dit, ça peut rester caché.
Bon, et globalement, si on ne respecte pas cette nouvelle législation...
Alors, l'Union européenne, elle a frappé fort, hein, je répète, c'est la réglementation la plus puissante de la planète. Un bureau spécifique d'investigation, l'IA Office, une sorte de FBI européen, sera chargé d'évaluer et de vérifier les grands modèles d'IA pour s'assurer qu'ils respectent les nouvelles règles. Des amendes pourront être imposées allant de 3 à 7% du chiffre d'affaires total de l'entreprise sanctionnée ou de 15 à 35 millions d'euros. C'est le montant le plus élevé qui sera retenu.
Pour terminer, Pierre, un point, c'est important, nous sommes en vacances, on utilise beaucoup sa voiture sur les carburants, les prix.
Eh bien, les carburants, l'essence augmente, hein, 2,025 € pour le samplon 95, 2,231 € pour le gazole, le gaz aussi augmente à 59,071 €, mais ça va très certainement baisser puisque le baril de pétrole, lui, baisse fortement à 83,40 €.
Bon, espérons que ça suive derrière. Merci beaucoup, Pierre Rondeau, d'avoir été avec nous. Allez, dans un instant, la météo et le journal sur RMC, RMC Story, à tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. RMC Apolline Matin.
Et tout ce qu'il faut savoir sur l'actu, c'est avec Clément Guiz. Rebonjour Clément.
Bonjour Rémi, bonjour à tous. Les pompiers toujours mobilisés dans le Var, incendie toujours pas fixé. Les habitants de Corrence, eux, ont pu regagner leur logement et constater les dégâts. Après l'incendie qui a ravagé plus de 42 000 hectares en Gironde, la saison touristique peut-elle être sauvée? Et sur le Tour de France Femmes, la bataille se joue aussi contre la canicule.
L'incendie du Var, toujours pas fixé, Clément.
Et les prochaines heures font craindre le pire, un retour des rafales de vent et vigilance orange canicule. 1850 hectares ont été parcourus par les flammes, une dizaine de maisons détruites à Corrence. La situation s'améliore puisque les routes sont de nouveau ouvertes pour accéder à ce village. Et notre envoyé spécial RMC, Rachel Sadodine, vous avez pu y constater les dégâts.
Des champs entiers d'oliviers calcinés, des collines noircies par les cendres dans les hauteurs de Corrence. Plusieurs maisons ont été dévorées par les flammes. Des fumées s'échappent encore de ce qui devait être un salon. Les tuiles du toit jonchent le sol.
Il reste les quatre murs, il n'y a plus de toiture, plus de fenêtres, il n'y a plus rien.
Assis devant leur maison encore intacte, Laurent et sa femme ne peuvent que constater les dégâts autour d'eux.
C'est la désolation.
Et d'être la seule maison là, qui est restée en état dans le quartier, vous vous sentez comment?
On est passé à côté. Malheureusement, on a des amis qui ont perdu leur maison et ils pleuraient, ils étaient pas bien, ça fait de la peine. Ils ont tout perdu.
Dans la commune, malgré la levée du confinement, les habitants peinent à reprendre une vie normale. Ils ont passé près de 48 heures coupés du monde, encerclés par les flammes. Marie-Hélène, 75 ans, a toujours vécu à Corrence. Elle n'avait jamais vu ça.
Les accès au village étaient incendiés. On n'avait pas d'électricité, plus d'internet, plus de téléphone. C'est comme si on était sur une île déserte avec un grand danger.
Un danger qui rôde depuis déjà 2 semaines. À chaque reprise de feu, Marie-Hélène a dû évacuer sa maison située en pleine forêt. Cela fait déjà 4 fois qu'elle se réfugie chez des amis dans le bourg de Corrence.
Franchement, moi, je ne vais pas rentrer tout de suite. On a toujours quand même une petite appréhension. On se dit, mais est-ce que ça va finir un jour?
Épuisée, la boule au ventre, la retraitée redoute le retour du vent annoncé aujourd'hui et qui pourrait venir attiser de nouveau ce feu toujours pas fixé.
Et après l'incendie en Gironde, cette fois, Clément, les restaurateurs hôteliers redoutent une saison morte.
Les habitants de l'Age Cap Ferré, certains quartiers du Porge vont retrouver cet après-midi leur logement. Reste maintenant un autre défi, sauver la fin de saison touristique. Le Premier ministre Sébastien Lecornu appelle les vacanciers à venir en Gironde par solidarité. Alors le message a-t-il été entendu? Notre envoyé spécial RMC, Lucas Aubert, s'est rendu à Andernos-les-Bains.
Ils n'ont pas hésité une seconde. Tanguy et Daniel ont changé leur plan par solidarité.
Nous étions en vacances à l'île de Ré et comme il nous restait une journée aujourd'hui, on s'est dit, pour soutenir les commerces et les restaurateurs, on ne s'est même pas posé la question. On s'est dit, aujourd'hui, on ira en Andernos.
Mais cette solidarité est encore loin d'être suffisante. L'activité des commerces reprend timidement. Séverine, co-gérante d'un café, ne reconnaît plus sa ville.
Ça ressemble en fait à une ville du mois de mai en semaine. Si vous voulez, dans cette rue-là, c'est sans fin. Le matin et soir, ça bouge tout le temps. Donc là, oui, c'est très très calme.
Elle craint la fin de la saison.
Les gens vont pas oser revenir ou vont peut-être avoir peur, se dire « je viens pas cette année ». On ne retrouvera pas en fait le chiffre d'affaires qu'on a perdu et il y a un énorme impact.
Même préoccupation pour Aurélie dans son camping. La gérante répond aux centaines de mails des clients pour les rassurer et ça fonctionne.
Il y aura vraiment cette semaine qui va être un petit peu bancale. Et à partir de samedi prochain, normalement, on est à 100%.
Et pour pallier aux pertes dues à la fermeture de la semaine dernière,
on a souhaité ouvrir un mois supplémentaire jusqu'à fin octobre.
De quoi, elle l'espère, limiter la casse.
Dans l'Aude, l'autoroute A61 a pu rouvrir à la circulation dans les deux sens à hauteur de Carcassonne, lieu où un incendie s'est déclaré hier après-midi. Incendie fixé qui a parcouru plus de 100 hectares et c'est un véhicule en feu sur cette autoroute qui est à l'origine de cet incendie. Des orages attendus sur le sud-ouest du pays, 7 départements, notamment de la Dordogne à la Haute-Garonne, en vigilance orange à partir de 16 heures. Et les images sont impressionnantes aux États-Unis. Des évacuations massives ces dernières heures en raison d'un violent incendie dans l'État de Washington. Des flammes qui ont ravagé plusieurs centaines de bâtiments. Fort heureusement, aucune victime n'est à déplorer.
RMC 8h34, Clément, cet été, la nouvelle destination à la mode, c'est le Nord.
Et c'est le frais face aux canicules à répétition. Les vacanciers boudent les fortes chaleurs et changent leurs habitudes. Ils cherchent la fraîcheur, Bretagne, Normandie, Pas-de-Calais, on la cote. Le taux d'occupation des hébergements marchands a bondi de 11% dans le Pas-de-Calais par rapport à l'année dernière. De quoi donner le sourire aux professionnels du secteur, Martin Lange.
On n'a rien vu venir, s'exclame Marie. Elle tient des chambres d'hôtes à Vimereux, sur la côte d'Opale, dans le Pas-de-Calais. Et elle affiche complet jusqu'à mi-août. L'été dernier, son taux d'occupation tournait plutôt autour de 60%.
Là, j'hallucine en fait.
Une des explications, ici, les températures dépassent rarement les 30 degrés.
Les gens tout de suite demandent est-ce qu'on peut déjeuner dehors? Est-ce qu'on va pas avoir trop chaud? La mer, elle est super bonne, elle est à 20 degrés. Donc c'est un peu comme sur la côte d'Azur, dans les gros coups de chaleur.
Un constat que partage Mathias, il loue des vélos et des kayaks en Savoie, près du lac du Bourg.
Nous, l'activité, je pense qu'elle augmente d'année en année. Les gens peut-être s'intéressent plus à la montagne et viennent chercher un peu plus de fraîcheur.
Les températures, ça devient un critère dans le choix de sa destination de vacances. Selon Vangelis Panayotis, il est président d'un cabinet spécialisé dans le tourisme.
On se dit finalement, en hiver, allons au soleil et en été, allons au frais. C'est une nouvelle destination alternative qui sont une réponse des consommateurs à ces effets de chaleur écrasante.
Des destinations également prisées pour leur calme et leur bon rapport qualité-prix, selon le spécialiste.
Mais bien sûr, et vous avez décidé également de changer vos plans, par exemple pour vous rendre pour vos vacances dans la plus belle région de France, les Hauts-de-France, eh bien vous nous appelez au 32-16, il n'y a aucun parti pris là-dedans Clément. Le peloton du Tour de France, femme, affronte un adversaire de taille, la canicule.
Le maillot jaune du Tour de France, femme, est toujours sur les épaules de Lorena Wiebes après sa deuxième victoire consécutive hier à Genève. Une étape, Maria Azé, disputée dans des conditions très difficiles, notamment à cause d'une chaleur de plomb.
À peine arrivée, toutes les coureuses sautent dans les bains froids comme Juliette Berthet de la FDJ Suez.
C'est vrai qu'il fait chaud à chaque fois un petit peu plus que la météo annonce, quand même pas facile à gérer. On a pas mal de ravito, mais des fois c'est vrai que ça chauffait vraiment dans les bosses. Dans le dos là ça tapait bien, mais je pense qu'on a plutôt bien géré avec les filles.
Plus de 35 degrés entre Aigle et Genève hier, alors Solène Muller, coureuse chez Saint-Michel, trouve des solutions.
Le serviette froide sur le dos tout de suite après l'étape. On met énormément de glaçons dans le dos pendant toute l'étape. On s'asperge d'eau froide, on boit au maximum. Dès qu'on est à l'hôtel, ventilateur et des pads à mettre sous les draps rafraîchissants.
Aujourd'hui, toutes pratiquent le heat training, des entraînements sous très forte chaleur pour mieux la supporter en course. Pas toujours suffisant pour le directeur de la performance de la FDJ Suez, Flavien Sonnen.
Il y en a qui se gèrent ça très bien habituellement et qui souffrent cette semaine. Des fois, il y a un bidon de perdu, un mauvais moment, un gros effort et on passe la limite. Quand on a le prend le coup de chaud, on n'arrive plus à forcément à s'alimenter. Et donc, quand on n'arrive plus à s'alimenter, on n'a plus assez d'énergie pour récupérer correctement. Donc, c'est les protocoles qu'on suit avec le docteur de l'équipe, la nutritionniste et nous, les coachs.
Et le peloton devrait encore souffrir aujourd'hui entre Genève et Poligny avec 38 degrés attendus cet après-midi.
Intégral Tour de France Femmes dès 15h sur RMC.
Le quintet se déroule sur l'hippodrome de Clairefontaine-Deauville à 18h30.
Et le pronostic de la Dream Team, leur favorite est le 7 Sœurs, leur outsider est le 2 Al-Saba.
Merci beaucoup Clément. J'étais en train de réfléchir à une chose, c'est que tout de suite je vais lancer Victor Pourchet, parce qu'il y a nombreux messages au 06 12 424 424, c'est le WhatsApp de l'émission, sur l'application RMC également, et vous réagissez également, notamment, à cette histoire d'Antibes. On est sur la Côte d'Azur, avec ces cabines de douche, ces douches de plage plutôt, qui sont laissés en activité, ça c'est une décision de la mairie, malgré un épisode de sécheresse peu connu.
Oui, ça vous fait beaucoup réagir sur le WhatsApp d'RMC. On a d'abord Hervé qui trouve la décision du maire d'Antibes normale. Il me dit, moi je paye le stationnement quand je vais à la plage. Je trouve ça tout à fait logique de pouvoir prendre ma petite douche en sortant de la plage. On a en revanche Christian qui lui vient de Toulon. Il nous dit que de son côté à lui dans la ville, c'est à l'arrêt, ses douches à la sortie des plages. Et lui trouve ça tout à fait normal, il ne faut pas gaspiller l'eau, nous dit Christian. Et si moi, j'économise en tant que Toulonnais, je ne comprends pas pourquoi les vacanciers ne feraient pas la même chose. Et puis on a André qui nous propose une solution. Pourquoi pas les rendre payantes, ces douches, 3 minutes et paiement de 2 euros. Les 3 minutes, 2 euros, les 3 minutes de douche. Pourquoi pas, quitte à les laisser en activité, gagner un petit peu d'argent pour la commune.
Et vous continuez à réagir, vous nous appelez au 32-16 RMC 8h38.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans un instant, ce sera le choix de la rédaction. De mauvaises nouvelles en termes de pouvoir d'achat pour les parents. La rentrée scolaire va coûter plus cher que l'an dernier. Un parent sur deux craint même de manquer d'argent pour couvrir ses frais. Et puis juste après, on parlera de Ceuta, l'enclave espagnole au nord du Maroc, qui a vu arriver des dizaines de milliers de migrants par la mer en fin de semaine, des dizaines de morts, de disparus. Et l'Europe qui se divise sur l'espace Schengen, notamment l'Italie veut en suspendre l'Espagne. On va faire le point avec Serge Slama, il est maître de conférence à l'université de Grenoble-Alpes. A tout de suite sur RMC et RMC Story. Bon réveil à tous.
RMC, Apolline Matin. RMC, Apolline Matin.
RMC 8h41. La rentrée scolaire, c'est dans un mois, avec de mauvaises nouvelles en termes de pouvoir d'achat pour les parents. Le budget moyen de la rentrée est en hausse. Il s'élève à 488 euros par famille. C'est 79 euros de plus qu'en 2025. C'est pas rien. Et selon une enquête Cofidis publiée aujourd'hui, plus d'un parent sur deux, 56%, craint même de manquer d'argent pour pouvoir couvrir les dépenses de rentrée scolaire. Lucille Pascanet pour RMC. Vous êtes allée à la rencontre de parents à Strasbourg.
Des seaux et des jets d'eau pour remplacer la mer. Cette année, Marguerite et sa fille de 13 ans ne partent pas en vacances, faute de moyens.
Non, c'est pas prévu cette année.
Impossible pour cette maman d'acheter des fournitures avant le versement de l'allocation de rentrée scolaire.
L'attends avec impatience. On compte là-dessus vraiment pour pouvoir couvrir toutes ces dépenses. Ça vient vers le 18 août. Donc en attendant, on s'adapte. On va privilégier ce qui est gratuit, comme les jets d'eau ici maintenant. Il y a des choses que je repousse à fin août, effectivement.
Selon l'étude publiée ce matin, 44% des familles prévoient de faire durer leurs anciennes fournitures, parfois à l'encontre des envies de leurs enfants. Karim a deux filles de 3 et 12 ans.
Ma fille qui rentre à l'école cette année, ça rajoute plus de dépenses. Et ma fille aînée qui est en 5e, j'essaie de convaincre, ton sac à dos ça marche toujours bien, il ne faut pas le remplacer. Voilà, ça marche comme ça, de négociation entre nous.
J'aimerais bien avoir des choses neuves, mais après j'ai des trucs qui marchent encore, donc je les utilise, on ne va pas faire des dépenses pour rien.
Les parents sont aussi de plus en plus nombreux à se tourner vers la seconde main.
Et Lucille, pour les nouvelles fournitures, celles qu'ils doivent racheter, les parents redoublent d'imagination pour économiser.
Oui, certains achètent en gros, d'autres petit à petit pour ses deux enfants. Miss Ba va où les bons plans l'amènent.
On a acheté quelques fournitures hier et je vous avoue, c'était quelques stylos et quelques cahiers. On en avait déjà pour une trentaine d'euros. J'ai pas encore acheté l'agenda par exemple. Hier, c'était 10 euros. 10 euros pour un agenda, pour un enfant, ça fait quand même assez cher.
Non, en fait, là, j'ai fait, par exemple, tout ce qui est col, j'ai trouvé sur Amazon. Je suis un petit peu les offres qu'on peut avoir sur Amazon ou sur d'autres sites, d'ailleurs, pour pouvoir faire quelques économies.
Fournitures, mais aussi vêtements, activités. Le budget moyen de la rentrée s'élève à presque 500 euros par famille. Pour Sarah, malgré le prix élevé, pas question de priver sa fille de cours de natation.
260 euros l'année, pour 45 minutes par semaine, oui, c'est pas donné.
Le fait de faire du sport, ça apporte beaucoup au niveau de la maturité de l'enfant et... Bon, en fait, on le sait que c'est une fois dans l'année et puis généralement, on économise en amont pour avoir les fonds le moment venu.
Selon l'étude dévoilée ce matin, la majorité des familles absorbent ces dépenses dans leur budget courant, mais 26% d'entre elles déclarent devoir puiser dans leur épargne.
Merci Lucille Pascanet. Allez, on va au 32-16. Retrouvez Alicia. Bonjour Alicia. Bonjour, merci d'être avec nous sur RMC Alicia. On est à Noyelles-les-Vermelles dans le Pas-de-Calais.
C'est ça. Et là, j'étais obligée d'intervenir. Vous avez dit qu'il fait pas chaud chez nous.
J'ai jamais dit ça. À moi, j'ai dit ça. Moi qui habite dans le Nord et qui vis dans le Nord. Non, non. Mais peut-être que quelqu'un l'a dit. Mais bien sûr qu'il fait chaud.
Ah, quand j'ai entendu dans le reportage, nous, ça va rarement au-dessus des 30 degrés. Je me suis dit, ah, mais ils ont pas de thermomètre. Ils sont pas venus chez nous. J'ai dû installer des ventilos dans la maison.
C'est vrai, parce que vous avez souffert des épisodes caniculaires et désormais, et j'en parlais à l'instant avec Victor Pourchet, moi j'habite dans le Nord, hein, Alicia, et c'est vrai que ça ne descend quasiment plus jamais en dessous des 30 degrés désormais.
C'est ça, aujourd'hui, là c'est 33 à 33 l'ombre, je crois qu'il commence. Nous aussi ça monte, par exemple la pelouse va les griller, ça va faire un mois que j'ai pas tendu, ça sert à rien, ça bouge plus.
Ah ouais, c'est de la paille, moi la dernière fois que j'ai tendu c'était au mois de juin, je crois.
Ça doit être ça début juillet peut-être, parce qu'il y a que les mauvaises herbes qui passent, mais on dirait, j'ai un cousin Perpignan, on a les mêmes pelouses que chez eux, donc il fait chaud aussi chez nous.
Mais c'est ça. Mais est-ce que ça vous inquiète, Alicia?
Franchement, ça me fait peur, parce que j'ai jamais vu autant de jours sans pluie. Je vois, moi, il y a plein de champs autour de chez moi, les pommes de terre ne poussent pas. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qui va peut-être faire peur, après pour l'économie, parce que je pense que tout ce qui est fruits et légumes, ça va être compliqué. Ça commence à faire peur. Parce que chez nous, d'habitude, un épisode caniculaire dans l'année, c'est 2-3 jours et on s'en sort. Là, on a dû s'équiper, on doit fermer nos volets. Nous, on ne faisait pas ça avant.
On achète des moustiquaires maintenant dans le Nord.
Aussi, oui.
Bah oui, non, mais on vit la même chose, Alicia. Essayons de voir le verre à moitié plein. Alicia, est-ce que vous pensez que ça puisse un jour développer le tourisme un peu plus par chez nous?
Ah, je vois beaucoup plus de monde et puis même les gens autour de moi, par exemple, nous on va à Berck, il y a la mer, il y a plus de gens qui vont à... D'habitude on y va une fois par an peut-être, et là je vois, il fait trop chaud ce week-end, allez hop, on va à Berck. Donc déjà nous, on va faire vivre la Côte d'Opale, tout ça. Donc je pense qu'après, oui, il y a les étrangers, il y a aussi maintenant les sudistes qui viennent chez nous.
Oui, ça sera peut-être encore une fois le verre à moitié plein pour le nord du pays. Merci beaucoup Alicia d'avoir été avec nous. Belle journée du côté de Noyelles-les-Vermelles, Pas-de-Calais. Il fera 35 aujourd'hui encore une fois. Bonjour Serge Slama.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur RMC, RMC Story. Vous êtes professeur en droit public à l'université de Grenoble-Alpes. Serge Slama, c'est peut-être du jamais vu, c'est certainement du jamais vu en aussi peu de temps. Au moins 60 000 migrants arrivés en seulement quelques heures entre jeudi soir dernier et vendredi dans l'enclave espagnole de Ceuta, dans le nord du Maroc. Tous, depuis, ont été ramenés de l'autre côté de la frontière, mais plusieurs dizaines d'entre eux seraient morts noyés. Des arrivées aussi massives, Serge Slama, est-ce que vous avez déjà vu ça?
Ah oui, on a déjà vu ça entre la Turquie et la Grèce ou dans la forêt entre la Biélorussie et la Pologne. C'est des phénomènes d'instrumentalisation. Alors c'est une situation complexe. Hein. C'est lié au contexte marocain très spécifique au moment de la fête du trône du roi Mohamed.
Racontez-nous.
Oui, en fait, donc il y a ce contexte marocain très spécifique qu'il faut pas ignorer. Hein. C'est-à-dire, il peut y avoir à l'intérieur du Maroc différents courants et le Maroc essaie de donner une belle image. Vous savez, ils ont organisé la Coupe d'Afrique des Nations, ils vont organiser la Coupe du co-organiser la Coupe du Monde. Ils essaient de se montrer comme un pays moderne. Et là, il y a 50 000 jeunes qui essaient d'aller en Europe à travers Ceuta. Donc il y a ce phénomène marocain. Il y a la relation avec l'ancien colonisateur, l'Espagne, qui est toujours très complexe avec la question des Sahraouis, hein, du Sahara occidental, comme vous le savez. Et puis il y a ce phénomène des réseaux sociaux qui a fait caisse de résonance sur une décision du tribunal suprême espagnol, très technique, difficilement compréhensible, mais qui a donné l'idée que s'ils arrivaient sur le Ceuta, ils seraient admis sur le territoire espagnol et donc européen.
Serge Slama, est-ce que vous partagez ce que disent certains? La situation elle est complexe, hein, mais Est-ce que c'est une manœuvre voulue par le Maroc pour faire pression sur l'Espagne, parce que le Maroc revendique toujours la possession de cette enclave de Ceuta?
Non, je pense que c'est une lecture trop simpliste. Alors, il y a cette relation entre anciens colonisés et colonisateurs, comme entre la France et l'Algérie. Vous savez, nos relations sont complexes. Mmh. On a déjà vécu ce type de phénomène migratoire aussi. Vous savez, sur les visas, les laissez-passer consulaires, etc. Donc, c'est à prendre en compte, mais en réalité, c'est un mélange de, il y a un aspect circonstanciel, cet événement du tribunal suprême espagnol, la caisse de résonance des réseaux sociaux, le malaise économique d'une partie de la jeunesse marocaine qu'il faut pas ignorer.
38% des jeunes Marocains sont au chômage aujourd'hui.
Voilà, exactement. Donc tout ça a fait qu'il y a eu ce phénomène de caisse de résonance. Je ne suis pas sûr. Quand on voyait entre la Turquie et la Grèce en 2015, très clairement, les Turcs poussaient les Syriens à aller en Grèce. Parce qu'ils négociaient avec l'Union Européenne et quasiment du jour au lendemain, ils ont coupé les flux. Là, c'est différent. Le contexte est très spécifique. Et la plupart, d'ailleurs, de ces jeunes sont arrivés dans cette enclave. Ils se sont aperçus qu'ils n'étaient pas accueillis, mal accueillis, pas pris en charge. Et la quasi-totalité sont repartis dans la journée ou le lendemain par leurs propres moyens, une fois que les portes ont été ouvertes.
Sergio Eslama, le gouvernement socialiste espagnol de Pedro Sanchez dénonce l'égoïsme de l'Europe sur la question migratoire. C'est vrai que l'Espagne, elle paraît bien seule sur cette question.
Oui, oui, c'est le vrai problème. Et les autres États européens se sont tournés au ridicule parce que on vient d'adopter en 2024 un pacte européen sur la migration asile. Et dans le cadre de ce pacte, il y a un mécanisme de solidarité. Il est entré en vigueur en juin de 2026. Les États d'entrée dans l'Union européenne doivent filtrer. Donc les Espagnols devaient filtrer l'ensemble de ces étrangers ressortissants de pays tiers qui rentrent dans leur pays. Et en contrepartie, s'il y a un afflux massif, ce qu'on appelle ce qui est arrivé là, il y a 50 000 migrants d'un coup, c'est un afflux massif de migrants, il y a un mécanisme de solidarité qui aurait été mis en œuvre. C'est-à-dire tous les États ont dû coopérer pour soit accueillir les demandeurs d'asile, soit éventuellement renvoyer ceux qui n'avaient pas droit au séjour. Et là, en fait, il n'y a pas eu du tout de solidarité. On a même vu le ridicule, la première ministre italienne qui rétablit des contrôles frontaliers, qui dit même qu'elle suspend Schengen alors que ce n'est pas possible, alors même que l'Italie n'a pas de frontière terrestre avec l'Espagne.
Pourquoi l'Italie fait ça?
Bon, je pense que c'est une question d'instrumentalisation politique. L'extrême droite a essayé de saisir cet événement-là pour remettre en cause à nouveau Schengen, alors que ça vient d'être évident en 2024, pour remettre en cause des normes adoptées par ses propres États. Le pacte européen sur la migration et l'asile, c'est une majorité de droite et d'extrême droite qui l'a adopté, comme le règlement retour qui rentre en vigueur, enfin qui vient d'être adopté aussi. Mais ils se sont ridiculisés parce que quelque part, c'est le premier ministre socialiste ici qui l'a géré calmement, qui a demandé la solidarité européenne. Et grosso modo, l'Espagne, enfin, elle a pas maltraité les migrants qui sont arrivés. Ils sont repartis eux-mêmes. Enfin, ils ont géré la situation comme ils devaient le gérer, cette situation.
La France a annoncé qu'elle multipliait par 5 la présence policière des forces de l'ordre, en tout cas aux frontières avec l'Espagne. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est une attitude un peu...
Alors, la France ne pouvait pas annoncer un rétablissement des contrôles frontaliers comme l'Italie, puisqu'on l'a rétabli depuis le 13 novembre 2015. Hein, et je parle bien de 2015 pour la COP21, puis les attentats. Et donc, en fait, on ne pouvait pas les rétablir. On peut très bien renforcer les contrôles, ça ne va servir strictement à rien. Et puis, vous savez, ces escadrons mobiles qui font les contrôles à cette frontière espagnole, on les retire du Briançonnais à la frontière franco-italienne, on les retire du Calaisie, on les retire de Mayotte. Il faut bien les prendre quelque part, on ne multiplie pas les forces de l'ordre comme ça. Donc ça veut dire que si on fait plus de contrôle entre la France et l'Espagne, vous aurez moins de contrôle ailleurs. Enfin, donc il n'y aura pas moins de passages en réalité.
Que prévoit... Alors il y a une réunion des ministres de l'intérieur de l'Union européenne qui est prévue demain. Qu'est-ce qui peut en sortir? Est-ce qu'on peut enfin espérer qu'un jour... l'Europe parle d'une même voix?
Ben, en réalité, le pacte est rentré en vigueur le 12 juin, donc il faut l'appliquer. Ici, les Espagnols pouvaient très bien appliquer le pacte et appliquer le filtrage, et il pouvait y avoir un mécanisme de solidarité en cas de besoin. Ça ne sert à rien d'inventer de nouvelles règles. Schengen a été révisé en 2024, donc là aussi, il suffit d'appliquer la révision. Je pense que oui, ils peuvent se mettre d'accord sur des mesures, mais ici, en réalité, la seule mesure, elle vient d'être faite, c'est de mettre dans la mer des obstacles frontaliers. La Cour suprême espagnole a estimé que s'il y avait des obstacles dans la mer, c'était un forçage frontalier, et pouvait y avoir des refoulements sommaires, des refoulements à chaud dans la journée. Enfin, c'est ce qui est possible si des migrants forcent collectivement une frontière, ils peuvent être refoulés immédiatement.
Il y a eu des retours massifs donc vers le Maroc. Hein. On l'a vu jeudi, entre jeudi et vendredi, plus de 60 000 personnes qui arrivent à Ceuta, territoire espagnol. Est-ce que ces retours massifs vers le Maroc sont tout simplement conformes au droit d'asile ? C'est ce que dénoncent un certain nombre d'associations.
Alors, il semble ici, ils ont été mal accueillis. Hein, les commerçants ont fermé leur devanture, ils les ont pas nourris, etc. Donc là, mais il semble que la quasi-totalité sont repartis d'eux-mêmes. Ils ont ouvert les portes. Donc, dans ce cas-là, on peut pas reprocher aux autorités espagnoles d'avoir ouvert les portes et que les gens repartent d'eux-mêmes. Il y a pas de souci. En revanche, si dedans il y a des mineurs non accompagnés ou il y a des demandeurs d'asile qui souhaitent faire une demande d'asile, bah il faut les examiner. C'est là où le pacte européen sur l'asile et l'immigration, il y a un règlement filtrage qui est applicable. Ils doivent examiner la demande d'asile. Ils ont 12 semaines pour ça. Hein. C'est prévu. Il est possible de les maintenir dans des lieux frontaliers. Il y a tout un dispositif qui a été mis en œuvre. Donc, il suffit de le mettre en œuvre. À nouveau, hein, les normes existent. Donc voilà. Alors après, je pense pas que dans ce contexte-là, on puisse reprocher grand-chose aux autorités espagnoles sur un territoire aussi restreint. Il y a pas grand-chose. Enfin, ils ont déjà des systèmes de prise en charge des migrants vulnérables, notamment. Donc là, s'il reste des mineurs dans les rues, dans leurs rues, ils doivent les prendre en charge, par exemple.
Serge Lama, une dernière question. Ce type d'événement, est-ce qu'il est amené à se reproduire ?
Oui, parce que vous venez d'en parler. Je suis aussi originaire du Nord, hein, d'ailleurs. Ouais. Je suis à Grenoble. Vous voyez bien, il fait chaud dans le Nord et il fait chaud partout. Et on a des successions de canicules. Ça impacte l'eau. Il va y avoir un dérèglement climatique qui va s'accentuer. Les inégalités économiques sont de pire en pire. Enfin, on voit bien que le monde va être de plus en plus déréglé, dérégulé. Et quand un monde est dérégulé, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des migrations depuis toujours. Hein, la migration, un phénomène naturel. Et quand un lieu devient invivable, vous cherchez à avoir un endroit où vous pouvez vivre mieux. Enfin, je veux dire, vous feriez pareil si votre climat se dégradait. On a incapacité de gérer cette migration et de l'anticiper.
Merci.
En réalité.
Merci Serge Lama, on est pris par le temps. Merci Serge Lama, professeur de droit public à l'université de Grenoble Alpes. Allez, dans un instant sur RMC, le journal de 9h et puis le meilleur des grandes gueules. On se retrouve demain à partir de 7h. À demain.